Dieu dans ta bénédiction. Je crois qu'il y a un grand écrivain catholique qui a dit Dieu existe, je l'ai rencontré, donc je dirais plutôt dans mon cas, Dieu existe, il m'a rencontré. C'était très tôt dans ma vie, déjà comme collégien, nous posions des questions, c'était le moment de l'existentialisme, et on cherchait un sens à l'existence. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un pasteur libéral, mais qui connaissait très bien l'Esprit Saint et qui y croyait, qui nous a fait lire l'Évangile de Jean. Alors, en lisant l'Évangile de Jean, je me suis trouvé devant le mystère de cette parole, qui semble venir d'ailleurs. Et je me suis dit, si cette parole qui s'exprime dit vraiment ce qu'elle est, tout le monde sera changé. Et avec cette, disons, ce questionnement de jeune, on est très absolu quand on est jeune, vous savez. Brisons avec les habitudes de ma famille, qui ne fréquentait pas tellement l'église, qui n'était pas pratiquante, l'église réformée, j'ai été voir dans chaque église quel était le noyau que je pouvais voir, le noyau commun qui me rattacherait à cet évangile de Jean, car je me disais, c'est une anomalie. Il n'y a pas plusieurs églises, il n'y en a qu'une. Et voilà, donc j'ai visité plusieurs églises, et un jour j'ai rencontré une personne orthodoxe qui m'a dit, mais voilà, c'est une petite liturgie qui se fait à Lausanne en français, est-ce que vous voulez venir? Et voilà, je suis resté depuis dans cette église orthodoxe. J'étais lecteur pendant 7 ans, diacre à peu près la même chose, et prêtre pendant 28 ans. Alors, je suis, comme j'ai une double profession, je n'étais pas tout à fait un autodidacte, mais quelqu'un qui est un praticien dans le domaine de la connaissance spirituelle. Et aujourd'hui, j'ai accepté le défi de vous dire ce que je pense être les rapports qui ont existé et qui devraient exister entre l'Église orthodoxe et la tradition juive. C'est un défi parce que je n'ai pas eu l'occasion. J'avais un collègue qui était juif, c'était une dame, mais nous n'avons pas pu avoir des discussions d'ordre théologique. Donc je confesse, j'avais un grand déficit de connaissances avant de me lancer dans cette conférence. Et vous savez que les enseignants doivent profiter de ce type de défi parce qu'ils apprennent beaucoup plus encore que ce qu'ils sont capables de transmettre. Voilà, j'espère qu'avec ça vous me pardonnerez et que j'aurai trouvé le ton juste. Il y a un psaume qui d'ailleurs a des résonances de psaumes égyptiens, qui est le psaume 103 ou 104 suivant vos numérotations, qui est le psaume qu'on appelle aussi cosmique, et nous allons le psalmodier puisqu'il fait partie de la tradition commune. À part ça, le psaume cosmique a été chanté dans toute la Méditerranée, aussi bien en Orient qu'en Occident, et faisait intégralement partie des services des vêpres. Il le fait toujours, en tout cas, pour ce qu'est l'Église byzantine.
Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes.
Elles ont fui devant ta défense.
Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre.
Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais assigné.
Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre.
Il conduit les sources dans les vallons, elles coulent entre les montagnes.
Elles abreuvent les animaux des champs, les anacs étranchent leur soif.
Les oiseaux du ciel habitent leur bord et font résonner leur voix dans les feuillages.
De sa haute demeure qui arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres.
Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plants pour le service de l'homme.
Il tire le blé de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme.
Il fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui fortifie le cœur de l'homme.
Les arbres du Seigneur se rassasient. Les cèdres du Liban qu'il a planté.
C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne à sa demeure dans les cyprès.
Les hautes montagnes sont pour les chamois, les rochers servent de retraite aux lièvres.
Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil connaît l'heure de son coucher.
Tu poses les ténèbres, c'est la nuit, alors que les animaux dépendent se mettre en mouvement.
Les lionceaux rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture.
Le soleil se lève et se retire et se couche dans leur tanière.
L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir.
Les œuvres sont innombrables, Seigneur. Tu as tout créé par ta sagesse.
La terre est remplie de tes créatures. Voici la grande et vaste mer.
La semeur qui réactive son ombre. Les animaux petits et grands.
Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour te jouer dans ces
tous ces animaux effèrent en toi. Pour que tu leur donnes la nourriture en temps opportun.
Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien.
Tu caches la face, ils sont éperdus. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans la poussière.
Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre.
Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres.
Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes, elle fume.
Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.
Que mes paroles vous soient agréables, je me réjouirai dans le Seigneur.
Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit le Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia.
Il faut qu'on... Comme ceci, ça va? J'ai l'impression. Il faut s'habituer à l'acoustique. Je commence par vous parler de quelque chose que tout le monde devrait connaître, je pense que tout le monde connaît, le livre biblique d'Esther. Qui ne le connaît pas? Tout le monde connaît. Donc, dans ce style un peu romancé, il raconte comment la jeune Esther, devenue reine, et son oncle, tuteur Mardoché, tous deux juifs, exilés en Perse du temps du roi Xerxès, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ, sauvèrent les autres juifs d'un massacre total. En déjouant auprès du roi le projet de vengeance d'un premier ministre, il s'appelle Aman. Celui-ci, blessé dans son amour propre, avait en effet obtenu du roi un édit d'extermination pour tous les juifs du royaume qui se seraient fait en un seul jour. L'histoire finit bien, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en reparler. Elle finit bien par une série de fêtes, de banquets, et notamment un banquet offert par la reine Esther, au cours duquel fut fixée la première fois la fête juive de Pourim. Cette fête très particulière du calendrier juif tombant en mars a conservé et emprunter d'ailleurs peut-être aussi quelques caractères carnavalesques et facétieux. Si je commence par parler de Mardoché, c'est que il eut une réaction qui est très bien décrite dans le livre d'Esther, au verset 4, 1 à 3, lorsqu'il eut connaissance de ce qui se tramait contre ses coréligionnaires. et son attitude revêt une dimension tout à fait dramatique. On lit dans ce livre qu'il déchira ses vêtements, s'étant revêtu d'un sac, se couvrit de cendres et se tenant devant la porte du roi, était là, espérant se faire entendre. Et il parvint ainsi à faire savoir à la reine qu'il ignorait tout, ce qui se tramait, et de l'inciter à affronter le roi, au risque de sa vie d'ailleurs, pour stopper le mécanisme. Je dirais seulement que ici nous sommes dans un haut lieu de la résistance, qu'il y a eu des personnes, une personne qui aurait pu être là, qui a sauvé beaucoup de juifs. Et alors, l'histoire de Mardochée nous incite à penser qu'il y a eu beaucoup de Mardochée, en fait, qui tentèrent, qui réussirent parfois, de s'interposer à une tragédie en marche. Bien sûr, dans l'Église orthodoxe, il y a eu des laïcs, des prêtres, des moines, qui ont défendu et caché des juifs et qui ont eux-mêmes subi ce qu'on voulait faire subir à tous les juifs. L'Église orthodoxe n'a jamais conçu une institution comme celle de l'Inquisition qu'on a vue au Moyen-Âge. L'action du patriarche serbe Paul Ier, qui est décédé le 15 novembre 2009, pour empêcher la guerre dans son pays, est très exemplaire. Et elle, je dis en passant que la conférence a été écrite et que toutes les références s'y trouvent. Donc si l'on veut chercher un livre, par exemple, on va trouver la référence pour le lire. Eh bien, le patriarche serbe a eu une attitude tout à fait remarquable. D'abord, il a tenté d'empêcher le drame qui se préparait, et un journaliste occidental, entre d'autres questions aussi plus profondes, mais c'est une question véritablement importante, qui lui demandait s'il approuvait qu'en cas de nécessité absolue, un assaillant musulman puisse être tué pour empêcher l'incendie d'un monastère historique. Eh bien, il répondit, s'il doit y avoir meurtre, je ne suis pas d'accord. L'Église orthodoxe entière considère, à l'instar de ce patriarche Paul, qui était vraiment une personnalité remarquable, j'ai eu la chance de le rencontrer, et qui a de magnifiques pages à ce sujet, pense que tout homme est une image sacrée de Dieu, ce qu'on trouve bien sûr dans la Genèse, et ceci conditionne, je pense, toute l'attitude de l'Église orthodoxe par rapport à d'autres traditions. Dans l'Empire romano-byzantin, les persécutions et les discriminations contre les juifs qui ont existé, certainement, le furent généralement pour des raisons sociopolitiques, notamment lorsqu'il y avait des guerres, lorsque les juifs qui se sentaient neutres penchèrent du côté des adversaires de l'Empire chrétien, qu'ils soient perses ou musulmans. Au moment de choisir une religion, 1000 ans plus tard, 1000 ans, pas tout à fait, mais presque, au moment de choisir une religion pour son peuple, au IXe siècle, Saint Vladimir envoya des émissaires s'enquérir de la meilleure d'entre elles, celle que l'on pourrait adopter. Il envoya ses émissaires dans le monde latin, au royaume des Khazars. Le royaume des Khazars est une exception dans le Moyen-Âge. C'était un pays merveilleux où il y avait une administration qui fonctionnait, c'est un pays très accueillant, qui était bien dirigé, au point qu'on se réfugiait facilement en Khazarie et que beaucoup de juifs y furent admis et constituaient d'ailleurs une part importante de la population. Donc Saint Vladimir envoya des émissaires dans le royaume des Khazars. Dans les marches, il faut voir ça, c'est dans les marches de l'Empire byzantin. Et voilà, c'était un pays très rayonnant, et aussi à Constantinople. Et les émissaires revinrent rendre rapport. Ils avaient eu vraiment un émerveillement extraordinaire de toutes les églises de Constantinople, notamment l'église des saints apôtres et l'église de Sainte Sophie, au point de dire qu'ils avaient vu là le ciel sur la terre, et ce témoignage l'a emporté sur les autres. Au royaume des Khazars, ils avaient été confrontés à des interdits alimentaires. C'était difficile pour une partie de ces guerriers qui étaient d'anciens vikings de pouvoir l'envisager. Et dans le monde latin, ils avaient trouvé que l'Église était trop austère. L'envers de cette histoire, pourquoi je vous la raconte, c'est qu'elle nous apprend que les rapports entre Slaves et Khazars juifs étaient donc, au Xe siècle, des rapports de bon voisinage, si ce n'est excellent. Après la conversion des Russes, donc juste au passage du 1er et 2e millénaire, l'immigration des Juifs en Europe occidentale se poursuivit donc sans entrave majeure, jusqu'au 15e siècle. Ce moment-là, l'Église russe eut à combattre une hérésie, appelée très malencontreusement hérésie des judaïsants. J'ai fait des recherches d'ailleurs à ce sujet, et j'ai trouvé un auteur extrêmement bien documenté, le père Georges Florowski, qui est digne de confiance, qui nous dit que cette hérésie des judaïsants n'était en fait pas une hérésie véritablement en groupe constitué, mais était un mouvement de libre pensée. Jusque-là, on a un auteur serbe, c'est Pacom le Serbe, très fiable, écrivait « Tous ceux qui venaient d'ailleurs ou des pays étrangers en Russie étaient reçus avec amour et on leur offrait le gîte. » Mais après cette hérésie, il y eut un combat. Les tenants de ce mouvement rejetaient la tradition des saints, interprétaient à leur manière les livres de la Bible et puisant abondamment à d'autres sources, notamment des ouvrages ésotériques ou en hébreu, des traités d'astrologie, etc. Il s'agissait vraiment d'une poussée anarchique, si on peut dire, au sein même de l'Église. Et la réaction de l'archevêque Gennad, 1485-1505, c'est la durée de son épiscopat à Novgorod, fut mal inspirée. Il avait accepté à ses côtés un dominicain nommé Benjamin, qui attisa la polémique à la manière catholique romaine en fournissant à cet effet de nombreux textes latins pour l'archevêque. On attribua donc l'hérésie notamment à des juifs khazars devenus chrétiens, mais insuffisamment convertis. De cet amalgame naquit beaucoup de ressentiment et allait à l'égard des juifs, et par décision de l'État, l'immigration juive fut stoppée pour des décennies à la frontière de la Lituanie. Il faut dire que le récit de la passion du Christ dans l'évangile de Jean met en scène les principaux, les prêtres, les chefs et le peuple, c'est-à-dire la foule, la populace venue à Jérusalem, principalement de Judée. C'est cette foule mélangée qui exigea de Pilate la mort du Christ. Le récit de Jean, à la différence des évangiles synoptiques, emploie simplement la notion « les Juifs », dire « crucifie-le » pour désigner cette foule. Certains ont peut-être entendu parler de Marcel Jauss, qui est un grand chercheur de la tradition palestinienne et qui a produit des recherches expérimentales, ethnographiques, à Paris pendant la guerre. Et il a démontré que les Juifs sont une traduction fausse de l'araméen, biaisée, en comparant les expressions habituelles que l'on pouvait employer dans ce milieu. Et le récit araméen serait justement les judéens et non pas les juifs. Quoi qu'il en soit, la tradition grecque et plus tard latine a véhiculé cette notion que c'est les juifs qui étaient à l'origine de la mort du Christ et, comme c'est un peu général, nourrissant une idée connue en Occident d'un peuple déicide, que l'on trouve même chez un père de l'Église comme Isidore de Séville. Pense que cette dérive, disons, n'était peut-être pas aussi élaborée ou sensible dans le monde orthodoxe avant cette époque. Au XVIIe siècle, les Polonais font la conquête violente de la Russie de Kiev. Or, les Juifs askénazes intègrent économiquement à la société polonaise, accompagnent les occupants et reçoivent le fermage des territoires enlevés aux autochtones. Du côté de la force occupante, brutalement colonisatrice, deux fois catholique romaine, très prosélyte, les Juifs déclenchent contre eux la haine des autochtones dont la foi est attaquée. Et en 1648, on déplore Au cours d'une révolte massive, des troupes de grande ampleur mènent plusieurs factions très compliquées à démêler. Des milliers de juifs sont massacrés. C'est la première fois qu'il y a une telle horreur qui se produit. En 1772, la Pologne a été démembrée. Et l'impératrice Catherine II, qui était occidentaliste, édite un décret que les juifs puissent désormais, de nouveau, qui étaient sur le territoire désormais russe, que ces juifs soient autorisés aussi à habiter dans d'autres zones, les zones de peuplement déterminées et non dans la Russie intérieure. Toujours cette réserve. Alexandre II vise à assouplir la loi et assimiler économiquement les juifs, mais dès 1850, les historiens voient que l'antisémitisme est croissant. Et en 1871, un nouvel épisode majeur doit être dit, une émeute anti-juive de la minorité grecque en Crimée dégénère en pogrom sanglant, première fois qu'on emploie le mot de pogrom qui signifie orage. Après l'assassinat politique d'Alexandre II, quelques années plus tard, en 1881, son successeur Alexandre III durcit les lois discriminantes. Puis en avril 1903, Nicolas II aussi, ayant à réprimer le début d'un mouvement révolutionnaire, s'attaque également aux Juifs comme de possibles agitateurs. En avril 1803 a lieu à Kirchinev, alors la plus terrible chose qui soit arrivée à la Russie impériale, un pogrom d'une très grave importance. Dans les pays dans les Balkans, les persécutions antisémites violentes sont plus souvent associées à la Deuxième Guerre mondiale. Et fort difficile à suivre, à moins d'être un historien chevronné. Je crois, j'ai compris qu'ils allaient de pair avec l'invasion allemande et la politique nazie dans les territoires occupés et les États collaborateurs. Voilà pour ces réalités. J'aborde maintenant la perspective adoptée pour cet exposé. C'est une perspective personnelle, comme aussi un peu un chercheur. C'est peut-être mon activité médicale qui me fait prendre des choses de cette manière. J'ai voulu faire une réflexion, me dire, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux traditions? Qu'est-ce que je peux découvrir et comment vous en parler? Donc, pour répondre au but de la rencontre de ce soir, j'ai axé délibérément mon exposé sur la recherche de ce qui nous est commun. Identifier des points de contact significatifs ou des éléments communs possibles avec la tradition juive, et ceci en partant de la tradition de l'Église orthodoxe que je connais. C'est une tâche délicate, je ne vous cache pas, et difficile parce que, pour reprendre en substance à propos de Martin Buber dans une lettre adressée en 1926 à une association judéo-chrétienne comme la vôtre, le message du Nouveau Testament est incompatible, quant au fond, avec une herméneutique juive. Pour autant, est-il certain que nous allons buter sur cette même incompatibilité d'interprétation de ceci automatiquement et pour tous les textes sacrés de la Première Alliance, comme d'ailleurs du Nouveau Testament? Et n'y a-t-il pas des niveaux d'interprétation auxquels les positions divergentes se rejoignent en réalité? Par exemple, de façon convaincante, le professeur Eric Edelman, docteur en philosophie du département des sciences et religions à la Sorbonne, présente sa propre lecture du Nouveau Testament, des évangiles, comme un véritable manuel pour la vie intérieure. Pour la petite histoire, il s'agit d'un spécialiste en langue sémitique et il a basé son étude en grande partie sur la Peshitta, l'évangile araméen encore utilisé en Syrie, dont plusieurs équipes de spécialistes estiment qu'il serait antérieur aux évangiles en grec. D'autres estiment qu'il était retraduit du grec en araméen plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est une étude très intéressante et on a là la preuve qu'une étude, que les évangiles justifient toutes sortes d'études et qu'il y a certainement beaucoup à prendre dans de telles recherches. Le Christ a-t-il explicitement défendu de transgresser un iota de la Torah? Oui, il y a plusieurs versets qui se rattachent aussi. Il dit aussi que le Pentateuque, les cinq livres, ne passeront pas. Et que, on dit plus tard dans l'évangile de Jean, chapitre 10, 35, en totalité, le canon de l'Écriture sainte ne peut pas être anéanti. Ceci au même titre, au même degré, d'ailleurs, pour le Christ, que ses propres paroles, qui sont celles du Père dans les cieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on va revenir sur le prolégomène, les prémices, les points d'appui qu'il y a dans la tradition judaïque pour entrer dans la perspective du christianisme. Le Christ a demandé à ses disciples parfois plus que la loi ne l'exigeait. Par exemple, le commandement nouveau d'aimer comme lui-même a aimé le monde et les siens, ou encore l'amour des ennemis. Ma question, les éléments de la foi chrétienne peuvent-ils être acceptés par la foi juive et l'inverse est-il possible? Citons encore Martin Buber et après lui André Chouraki, qui tous deux ont commenté l'évangile révélé, mais aussi le dit de Rabbi Yeshua de Nazareth dans le Nouveau Testament, ainsi que le Targum de ses rabbis disciples, qui sont les apôtres, leur reconnaissant de grandes qualités. Il est possible pour les orthodoxes de faire un chemin inverse à l'égard du judaïsme en comparant les interprétations juives de l'Ancien Testament avec la tradition chrétienne orthodoxe, la lumière du Saint-Esprit, avec cette interrogation. Avons-nous une lecture différente ou une lecture semblable de tel ou tel écrit? Voilà, je voulais poser cette problématique et ne pas l'écarter de cette conférence avant d'aller plus à fond. Il y a une lecture chrétienne spirituelle qui remonte à très loin dans les églises chrétiennes et aussi dans l'église orthodoxe, et j'ai pris l'exemple de Saint Eucher. Saint Eucher, c'est un saint occidental qui a vécu la tradition œcuménique Orient-Occident comme moine et ensuite comme évêque de Lyon où il était patriarche des Gaules. Il a vécu au IVe siècle. Ce témoignage de ce père de l'Église qui est un gallo-romain est très intéressant. Saint Eucher a pratiqué l'hésychasme dans l'îlot de Sainte-Marguerite, qui s'appelait à l'époque l'Hérault, pendant 12 ans, et il a écrit un ouvrage qui est l'Éloge de la solitude, qui est un ouvrage passionnant. Il montre qu'entre les pères du désert d'Égypte, ou les pères du désert, c'est un père du désert, de l'Hérault, et bien d'autres endroits, on pratiquait la même, disons, avec la même vitalité, la recherche de Dieu et de la prière. Voici ce qu'il dit à ses fils, parce qu'il avait été marié, et lui et sa femme, après avoir élevé leurs enfants à un âge où ils n'avaient plus besoin d'être biberonnés, sont partis à l'Hérault. Les deux fils sont devenus moines à l'Hérault et ils ont été évêques tous les deux. Alors, le père, lorsque lui-même était évêque, a donné un enseignement qu'il pensait utile à ses fils. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors voici ce qu'il dit, c'est un florilège, je l'avais rassemblé pour une autre occasion. Les enseignements sacrés sont distincts de tout autre. Ce fut un trait de la providence divine d'envelopper ses écrits dans un mystère céleste, tout comme la divinité elle-même est enveloppée dans son secret. La lecture prophétique aperçoit dans le récit des événements historiques l'ombre de l'avenir. Le sens analogique, qui appelle, disons, une interprétation supérieure, conduit l'esprit au mystère sacré. Le sens spirituel ou typologique, qui analyse les figures et les compare, doit être pénétré par le Saint-Esprit qui vivifie la lettre. Au moyen d'une interprétation figurée, les enseignements sacrés sont distincts de tout autre. C'est un peu un leitmotiv. Ainsi, le buisson ardent est-il la figure de Marie, la Vierge, parce que du buisson qu'est le corps humain, elle a fait jaillir comme une rose qui est le Sauveur, ou encore parce qu'elle a subi la puissance du feu divin sans être consumée. On a là, une question quelle est la réalité de l'expérience religieuse et la proximité que l'on peut avoir avec Dieu, sur lequel nous allons revenir. Jérusalem, dit toujours Sainte Chaire de Lyon, c'est l'Église ou l'âme, et tout ce qui convient en général à l'Église convient à l'âme. C'est alors dans l'âme que l'on entre dans l'intérieur du temple divin et dans le Saint des Saints. Au sens littéral, le ciel, c'est la voûte bleue que voient nos yeux. Dans l'écriture, au sens tropologique, non, ça c'est le sens typologique avec encore un vecteur qui nous indique vraiment la direction, c'est la vie céleste promise à nos efforts. Les eaux, dit Sainte Chaire, au sens allégorique, c'est le baptême. Au sens anagogique, dirigé vers ce qui est supérieur, ce sont les anges, d'après le psaume, que les eaux qui sont au-dessus des eaux louent le Seigneur. Je laisse maintenant ce vaste champ d'études d'interprétation croisée aux personnes plus compétentes, me bornant à une approche élémentaire beaucoup plus modeste, qui permettra la discussion. Finalement, je me suis donc efforcé de rassembler le tout de mes connaissances en gardant une perspective ouverte. La source d'information dont je me suis servi concernant l'histoire juive est essentiellement l'ouvrage collectif édité par Elie Barnavi et Denis Charbit, l'histoire universelle des Juifs de la Genèse au XXIe siècle. Je pense que vous connaissez presque, enfin beaucoup de personnes ici doivent connaître ce livre. Remarquable livre de 153 articles, très bien résumé, paru chez Hachette en 2002, une nouvelle version, et qui est très complet. Il y a malheureusement peu d'indications sur le contenu de la foi juive actuelle. Premier élément que je souhaite partager, sous le titre « Une même famille spirituelle ». Donc, Église orthodoxe et judaïsme, une même famille spirituelle. L'Église orthodoxe à laquelle j'ai adhéré par choix il y a plus de 45 ans a pour moi le visage de l'Église du Christ, des apôtres, Église répandue parmi les peuples comme un levain, imitant en cela les missionnaires de la Torah, de la diaspora juive. Le concept de tradition est souvent pris en mauvaise part par nos contemporains parce qu'on le confond avec la répétition des habitudes du passé et les résistances sociales et psychologiques ou le conservatisme. Mais qui veut transmettre doit dégager nécessairement l'essentiel du secondaire, qui est lié au temps, et par un travail de discernement constant et ardu, en retournant au phénomène originaire et aux formes éternelles. La tradition, en effet, n'a pas qu'une archive. Elle se vit, et c'est pour ça qu'on lui accorde souvent le qualificatif de tradition vivante dans l'Église orthodoxe. Quant à l'adjectif orthodoxe, qualifiant l'Église notamment, ou si la tradition est d'autre chose, la foi. Il n'est pas synonyme de traditionnaliste. Vous l'aurez compris. Il se traduit en décomposant son étymologie par ce qui est droit, ortho, et glorification, doxa, la louange. Donc, une allusion à la fois à la prière du publicain s'adressant à Dieu et à la prière centrale, publique celle-ci, la divine liturgie qui est une conversation de Dieu avec son peuple. Et, deuxièmement, à l'agir humain qui est conforme à sa volonté, à la volonté divine. Si la liturgie est la colonne vertébrale de la vie spirituelle, et c'est le cas pour les orthodoxes, la mise en pratique des enseignements divins, l'orthopraxie, en est évidemment la condition. Nous voyons clairement que la liturgie eucharistique est dérivée des formules de bénédiction de la liturgie juive, Barakot. Et que l'orthopraxie, ce levier divin, puisque Dieu nous sauve et nous attrape en fait par notre obéissance, ce levier divin d'élévation spirituelle et de sanctification trouve sa force dans une vie conforme à la loi divine. Remarquons que la conscience des Israélites de former le peuple de Dieu date d'une période précise, l'Exode, et que l'élection d'Israël parmi les nations est rendue légitime justement par la mise en application de la Torah par la communauté. Selon les récitatifs du Targum palestinien. L'univers et l'homme n'ont été créés et conservés que pour la Torah. Celle-ci ayant été offerte au monde entier avant le Sinaï, tous les peuples l'auraient refusée, sauf Israël. La foi chrétienne orthodoxe, qui est l'illumination par le Christ Verbe incarné et l'Esprit Saint de Dieu, est simultanément une foi qui se formule comme connaissance, pistis en grec. À la source de la spiritualité orthodoxe, on trouve l'expérience des saints dans la lumière, telle qu'attestée dans les psaumes. Vous connaissez, je pense, ce verset d'un psaume. Et on trouve l'expérience des saints dans la lumière attestée et éprouvée chez les hommes de Dieu. Dans Moïse est un exemple, mais aussi dans le deuxième, dans l'ère commune, il y a cette expérience de la lumière incréée. Certains saints en ont été porteurs, comme saint Kalinik de Cernica en roumain, ou bien saint Séraphin de Sarov en russe, ou bien même saint Benoît, saint Martin de Tours et saint Léger d'Autun, le dernier martyr de la Gaule qui nous est cher. Donc je répète que la foi chrétienne est simultanément non seulement illumination, mais foi qui se formule. Et le but divin de cette foi est la communion divine, participation de l'humain au divin, en grec théosis. La théologie mystique de l'Église orthodoxe n'aurait pas pu demeurer ce qu'elle est sans cette participation à la vie en Christ. Je pense que c'est comme ça que l'Église orthodoxe a pu se préserver de beaucoup de tentations. En résumé, la tradition séculaire de l'Église orthodoxe jusqu'à nos jours s'identifie à cette expérience spirituelle, personnelle et collective des communautés ecclésiales et des saints formant une historiographie inépuisable à travers l'espace et le temps. Je sais, si vous allez voir une librairie, par exemple, il y a un rayon orthodoxe, combien d'histoires de saints peut y avoir qui ont été publiées, il en sort constamment de nouvelles, qui ont donné un enseignement, qui ont laissé une trace de quelque chose, et qui ont parfois souvent leur icône, etc. Grâce au pouvoir charismatique de l'épiscopat, réuni au concile œcuménique, et délibérant sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et sa présence mystérieuse, ce qui n'est nullement automatique, l'Église indivise de l'Empire romano-byzantin des premiers siècles, dans l'Église actuellement catholique et actuellement dite orthodoxe, les deux étaient catholiques orthodoxes, sur conserver l'unanimité de la foi. La meilleure icône de cette ecclésialité qui s'est exercée est l'icône de la Pentecôte. Alors, l'icône de la Pentecôte représente le collège des apôtres, d'abord une table verticale, à gauche 6 apôtres, ou 7, à l'autre 6 apôtres, et en face une cathèdre qui est restée vide. C'est que pour la conscience des orthodoxes, le Christ est chef de l'Église, à ce point que vraiment, lorsqu'elle était dans cette unité du Saint-Esprit, elle sut garder la vérité. Les dogmes de l'Église œcuménique, c'est vraiment le mot œcuménique, ça veut dire la terre habitée. Donc c'est vraiment le mot qui n'est pas le mot dérivé comme on l'entend quelquefois sur les rapports œcuméniques. Ils ont pu triompher d'erreurs extérieures qui tentaient de détruire l'Évangile. Donc les dogmes sont là pour empêcher cette dérive et pour guider le croyant. En ceci, ils sont salvifiques, c'est un vrai remède, et aussi une exigence de foi. On ne pourrait pas baptiser quelqu'un qui n'accepterait pas l'essentiel de ses dogmes. Et on arrive maintenant justement à ce qui m'a, excusez-moi ce mot, titillé, je crois qu'on comprend ceci ici, dans cette région comme chez nous, dans ce sujet. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un geste typique et signe de croix qui permet de distinguer un orthodoxe et à d'ailleurs d'autres églises anciennes, voilà, et qui est reproduit en quelque sorte les dogmes. Vous avez certainement, vous savez que dans les Christ romans, le Christ tient sa main d'une certaine manière. Alors, il y a deux doigts sont ensemble et trois sont libres. Alors, ça peut être comme ceci, il y a différents perfectionnements, disons, dans ce geste. Le plus simple qu'on apprend aux enfants, c'est comme ceci, trois bien serrés, deux repliés. Dans ce geste, que j'attendrai chaque fois qu'il y a un nouveau pape, qu'il le bénisse en reprenant ce geste, qui est son église finalement, et souvent n'est pas le cas, il y a cette confession de Dieu trinitaire et du Christ qui est vrai homme et vrai Dieu. Ce sont au fond les deux sujets fondamentaux qui ont occupé ces conciles œcuméniques, qui ont maintenu l'unité. Alors je vais passer là-dessus, mais je dirais simplement que il y a une église qui est devenue depuis une église plus nationale, qui est l'église copte, qui était un peu en dehors du monde byzantin, qui est un réflexe, disons, de protection de son identité, un réflexe identitaire, dirons-nous, de nos jours, et qui n'a pas accepté exactement les énoncés comme les pères les ont donnés après 381, et qui n'a pas participé à tous les conciles œcuméniques. Eh bien, cette église, je l'ai découvert d'une manière tout à fait intéressante. Nous avions un diacre éthiopien qui était persécuté dans son église. Il avait essayé d'empêcher des grands déplacements de population qui étaient un désastre épouvantable pour les familles. C'était un régime communiste, marxiste. Et il avait, étant un homme intelligent, etc., il avait un certain impact et tout à coup il était menacé, il a dû sauter dans un avion, c'était la der des der, et il était à Lausanne, il faisait des études de mathématiques, et je l'ai vu se signer comme ceci. Il s'agit là, si on regarde ça en mauvaise part, on dira c'est une église monophysite, il faut qu'il se corrige, etc. Je lui dis surtout pas, parce que c'est un homme intelligent, en plus, pour comprendre qu'il n'allait pas se fermer quand même à l'ensemble de la tradition, simplement par ce geste. Je lui dis, là tu as la confession de Saint Cyril d'Alexandrie, parce que Saint Cyril d'Alexandrie, il a dit, il protestait contre ceux qui faisaient du Christ soit uniquement un homme, soit uniquement un Dieu. Et il disait qu'il avait une seule physis, une seule nature, et que c'était le Verbe incarné, en fait. Alors, après, on a distingué que dans le Christ, il y a deux plans qui sont entièrement consistants. Et alors, on a évolué. Alors, cette expression de Saint Cyril a été dépassée. Elle ne convenait pas pour faire obstacle à d'autres hérésies, notamment les hérésies dues à la volonté. On disait que le Christ n'avait qu'une seule volonté divine, et donc à ce moment-là tout marchait, et c'était au fond une pièce de théâtre qu'il est en train de jouer en s'incarnant. Donc, au contraire, nous disons qu'il a une volonté humaine, une volonté divine, et que c'est justement dans ce rapport des volontés que réside la possibilité de la liberté et du salut pour nous autres aussi. Donc, très très important ces dogmes. Alors, j'ai dit à cet ami, mais garde ton signe, parce qu'il nous montre une chose, que la tradition est une réalité, elle traverse tous les siècles, et que là, c'est avant le 4e siècle que ce signe est né. Bien sûr que si c'était après, il serait disparu. Voilà. Il faut aller au-delà des conciles œcuméniques du premier millénaire. Et c'est vraiment ce que j'ai appris de la tradition juive. Bien sûr, je l'avais déjà lu et j'étais attentif à ceci, mais ça m'a aussi concerné. Les conciles du deuxième millénaire sont beaucoup moins connus, ceux de l'ex-orthodoxe, et l'ex-orthodoxe, par réserve, ne les présente pas comme, disons, au même titre que les premiers, les seconds au même titre que les premiers, parce qu'ils disent qu'il faudrait qu'on fasse le même chemin avec les chrétiens de l'Occident. Ce sont des conciles qui ont parlé de la grâce et de l'expérience de la grâce. Et d'autres conciles, justement, l'union des volontés dans l'Église. Mais nous gardons un seul de ces conciles, ils sont au nombre de six, qui parle justement de la doctrine de la grâce et dont le porte-parole était Saint Grégoire Palamas. Alors, vous avez entendu, s'il y a des catholiques parmi vous, vous avez entendu parler de Saint Grégoire Palamas. Alors, on parle comme quelque chose de très bien, etc., mais est-ce qu'on dit vraiment ce qu'il en est? Je ne suis pas sûr que le message ait passé jusque-là. On se dit, ça doit être quelque chose de très bien, mais on ne sait pas quoi. Je vais essayer de vous résumer. Il y avait à Constantinople un professeur dans l'université faculté de théologie qui se piquait de belles lettres et qui avait beaucoup d'influence. Et il avait replongé dans la philosophie grecque antérieure au christianisme et il avait repris beaucoup de choses. Et il était arrivé à la conclusion que si ses étudiants qui avaient de la peine à comprendre ce que lui enseignait pourraient être chrétiens, alors comment le seraient ces moines qui n'ont reçu aucune instruction, qui restent dans des cellules sans parler à personne et qui sont censés prier en se regardant le nombril. C'était comme ça, on les appelait les nombrilistes. Donc c'était un professeur qui est passé complètement à côté de la tradition, mais il avait beaucoup d'influence. Il disait qu'on ne pouvait pas connaître Dieu autrement que par analogie, d'une manière intellectuelle, comme on reconnaissait une image en soi-même de ce que pourrait être Dieu, etc. Puis on avait des considérations de ce type. Et les moines du mont Athos se sont tournés vers l'un d'entre eux, qui était archevêque de Thessalonique, pour les aider à répondre à ces attaques. Et il a écrit 3 fois 3 livres. Ils sont une démonstration de la réalité de l'expérience religieuse chrétienne qui est une participation aux énergies divines. Le monde occidental se débattait alors, et ça n'a pas fini je pense, dans des réflexions qui déplaçaient le sujet en parlant de grâce incréée et de grâce créée. Et d'une manière que, véritablement, moi, je ne m'y retrouve pas. Et c'est une réponse, en fait, de l'orthodoxie pour retrouver les vraies eaux vives de la spiritualité que ce fameux concile de Constantinople qui a eu lieu en deux fois, en 1349-1351. Alors, quelle est la réponse? C'est que la toute-puissance de Dieu lui permet d'être à la fois une essence inaccessible, c'est-à-dire même une divinité en 3 personnes inaccessible, plus exactement qu'une essence, et présent dans ses énergies lorsqu'il s'abaisse pour rencontrer l'homme, sous formes diverses, ça peut être c'est l'amour qu'il a pour nous se fait sentir, sous forme, nos sens peuvent participer à ces révélations, et sous forme de lumière et de connaissance. Et toute la connaissance spirituelle, elle est dans le fait que la créature est faite pour Dieu. Et naturellement, même dans cet état très bizarre où nous sommes, donc inscrits comme une espèce dans le monde de l'évolution, est tenu à... Et dispersé entre individus qui ont un corps comme un scaphandre qui nous isole des autres et qui rend aussi possible notre liberté de décision, eh bien, même dans cet état-là, la condescendance de Dieu, ses énergies divines, nous touchent et qu'une âme purifiée, elle participe vraiment à Dieu. Et je crois que cette manière de voir les choses, qui touche vraiment le cœur de l'homme, qui touche tout, l'homme intégral, rejoint la vision hébraïque. Dans l'évangile de Jean, il est dit, nous viendrons, c'est pas encore la prière sacerdotale, c'est le chapitre 14, celui qui suit mon enseignement, qui garde mes paroles, nous viendrons à lui, le Père et moi, nous ferons notre demeure chez lui. Faire sa demeure, cette inhabitation, qui est promis aux chrétiens, c'est rendu possible parce que Dieu, justement, peut s'approcher de l'humain sans mélange. Parce que si on admettait le contraire, on dirait alors c'est un panthéisme. Alors voilà. Et puis, ce qu'ont eu de la peine à accepter, ce qu'a eu de la peine à accepter l'Occident, c'est que l'Occident a une vision plutôt essentialiste que personnelle de Dieu d'abord. Il place a tendance à placer l'essence, après Saint Augustin et aussi pour d'autres raisons, l'essence avant les personnes. Et il se disait, eh bien, si on a enfin que l'essence est inconnaissable, et au fond, c'est une manière d'enfermer un peu Dieu dans son essence. Et donc, on est là dans un piège pour l'explication de la foi, pour l'explication des énergies divines qui nous habitent et qui peuvent faire en sorte que le courage, par exemple, d'une mère qui prend une décision contraire à l'intérêt de ses enfants pour sauver d'autres gens, ou bien, etc., dépasse ce qui est humain et sont vraiment données par Dieu. C'est la porte d'entrée, si vous voulez, pour que notre vie ne soit pas seulement terrestre, ce dont je vous parle maintenant. Pour aller un peu plus explicitement, je veux parler maintenant de la transmission de la foi entre liturgie et rite. D'abord, une observation actuelle. La recherche de spiritualité tout azimut par nos contemporains, à condition qu'elle soit sans dogme, et 100 fois formulé, le mot formulé, vous verrez, a deux significations, et bientôt nous dira-t-on sans appartenance, ni rite, ni fête mystagogique, ni église, est une évolution tout à fait stupéfiante et absolument inconcevable pour un orthodoxe qui a une expérience de vie dans son église. Et je pense qu'il en est bien sûr de même pour la tradition juive. Mais il faut voir que de génération en génération, la situation ne s'améliore pas tellement de ce côté-là. Or, il est trop simple d'incriminer l'effondrement des systèmes de croyance et leur désaffection en face de la description du monde par la science. Car, et ça je parle en tant que scientifique, depuis que l'humanité existe, le fait de l'esprit humain, le fait de la conscience, ce dont l'art, la vie en communauté, disons même les rites funéraires témoignent aux origines des hommes, même chez l'homme de Cro-Magnon, qui était très spirituel, s'impose ce fait parallèlement au monde de l'objet que décrit la science. Alors, je me suis demandé pourquoi maintenant s'éloigne-t-on de l'Église et y a-t-il une rupture avec la foi qui se formule, pistis? Pourquoi celle-ci n'est-elle plus osée ni transmise au plus grand nombre? N'est-ce pas parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui et des églises entières ne savent plus que la foi est une conversation avec Dieu, que le rite, la divine liturgie est l'apprentissage mystérique de la vérité? Et il s'agit vraiment d'une amputation moderne, une sorte de hiatus de l'âme qui est laissée à elle-même, âme qui n'a plus d'expérience de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une énergie, bien entendu, ça c'est pour la réforme, et qui n'a plus aucun mot pour s'adresser à Dieu, puisqu'il n'a pas appris et ne sait pas. Alors que si la conscience de soi, qui donne un certain prix aux choses, intervient quand nous disons une prière que l'on connaît, par exemple, nous devenons différents par cette prière même, rendue à nous-mêmes, à notre vérité, notre authenticité, et finalement naturellement capable de contemplation. Remontons donc le fil de l'histoire de l'humanité. Le dit de Dieu, excusez-moi cette expression, je la prends à dessein justement pour nos amis juifs, si vous préférez la révélation judéo-chrétienne, est apparue dans un milieu humain particulier, prêt à le recevoir, celui de la tradition orale. Les études qui ont été faites par Marcel Jouz sur la tradition orale nous montrent que ce n'est pas simplement une répétition orale, mais que dans cette population, le geste de parler implique l'être total. On sait, bien sûr, la psychiatrie sait bien que la parole est une chose, que le comportement de la personne dans sa vie soutient cette parole, ne la soutient pas, donc on fait un mensonge, une vérité, et que aussi il y a des communications infraverbales, et que ce qui nous tient à cœur nous met plus en communication avec l'autre, parce que réveille, disons, un acquis, une expérience qui se traduit aussi bien par les réflexes du pharynx que par une animation. Voilà. Donc, les gestes de la tradition orale, pour prendre vraiment ça dans le sens anthropologique actuel, sont une caractéristique de ce milieu humain. Et il a traversé, ce milieu humain a été capable de faire traverser à des contenus très très importants des siècles avant d'être mis par écrit. On en a fait la preuve parce que la tradition des psaumes mise par écrit assez précocement par les Massorètes était... non, pardon, c'est juste l'inverse. Les Massorètes n'avaient pas mis par écrit. Et tout de suite, seulement en l'an 1000, quelque chose comme ça. C'est bien juste, Eliane? Je sais pas. On a mis en évidence que ce qui avait été écrit en l'an 1000 était semblable au manuscrit de Qumran. Donc, du 1er siècle. Et donc, vraiment, mot à mot. Donc, cette manière vivante, incarnée, vous voyez, on va toucher des choses importantes là, de garder, de conserver les paroles, c'est une chose que notre monde moderne doit vraiment pas balancer imprudemment aux orties. Alors, Marcel Jouss, il l'a dit, il est important de remarquer que les formules araméennes du Targum, donc le Targum, c'est la traduction par bribes de l'hébreu, s'inscrivent dans une logique et un rythme, puisqu'ils sont compilés, qui leur est propre. Donc, c'est chaque fois, non pas des mots, mais des groupes de mots, des expressions, qui sont comme des dominos, et qui sont inscrits dans la mémoire vivante. Ces targums sont très difficiles à refaire, parce que c'est toute l'expérience humaine, face à Dieu, qui s'est cristallisée dans cette formule, et qui contient une grande vérité. Et alors, si on commence à la modifier par des traductions littéraires ou autres, ça perd toute sa substance. Dans l'Église orthodoxe, il y a ce phénomène. On retrouve dans la célébration et les rites des antiques liturgies de toute l'Église chrétienne cette méthode éprouvée pendant des siècles dans la tradition juive, ainsi que ce phénomène de baptême des langues successives. À chaque fois qu'on traduit dans une langue, il y a une expérience vivante qui est nécessaire pour que cette traduction soit habitée. L'Église orthodoxe en a conservé et adapté les principes pour la christianisation de nouveaux peuples. Bon, le premier, c'est peut-être l'islam, le premier connu, mais il y a énormément de traductions qui étaient faites à partir du grec. La première, vous ne devinerez jamais, c'était fait au 3e siècle pour les Huns. Et on l'a pas retrouvé. Par contre, vous savez qu'il y a une grande hérésie qui a balayer l'Europe sur les Goths, les Visigoths. Ils ont été christianisés en Crimée et l'évêque Ulfila a fait cet effort. Et les Goths sont venus avec une musicalité et une liturgie qui était la liturgie de Constantinople de l'époque. Malheureusement, Constantinople était à côté de la plaque pour la confession de la vraie humanité et de la vraie divinité du Christ, et c'était teinté d'arianisme, moins grave qu'à Alexandrie, mais suffisamment pour couper ces grandes populations goths de cette racine chrétienne. On a tant de mal à sauvegarder, qui est vraiment pour nous si importante, qui est la tradition de l'orthodoxie. Donc, en Occident, en Espagne, etc., la musicologie a été apportée à partir de Constantinople, à travers cette évolution qui a passé à travers l'Italie, la Gaule et l'Espagne. Et des formules Et tout à l'heure, je vous ai parlé de cette formule, les Juifs dans la Passion du Christ. Vous voyez, un mot qui est mal compris, mal traduit, peut avoir des conséquences inimaginables. C'est comme si on veut envoyer une fusée dans la Lune. Si on fait une erreur de calcul, elle passe à côté. Donc, l'Église orthodoxe, elle est vraiment à cheval sur cela. Et et les moments où on hésite, on est dans l'impasse et on doit chercher, bien entendu. On compte uniquement sur l'inspiration de l'Esprit Saint et qui doit être confirmée par l'acceptation de tous. Vous qui pratiquez la Bible, vous avez très bien vu que le style de la Bible, qui varie d'ailleurs d'un livre à l'autre, que ce soit le nouveau en tout cas et l'ancien aussi, enfin l'ancien surtout, mais le nouveau en tout cas, transporte justement ce type d'expression et des modes de récitatif oraux hébreux. Alors, ces fameuses formules, ça se passait comme ça. Il y avait d'abord une lecture en hébreu qui faisait souvent en secret vis-à-vis du traducteur qui lui proclame la traduction, mais par petits bouts. Et après, il y a encore un commentateur qui était tout dans la régime palestinien, était tout de suite là et qui peut être dissocié, qui est le commentaire. Alors ces modes récitatifs oraux, on les trouve, par exemple, dans les paraboles du Christ. Dès qu'il y a quelque chose qui marche par deux ou marche par trois, c'est un récitatif. Le Christ a fonctionné vraiment comme dans l'esprit des rabbins de l'époque. C'était un rabbin de ce point de vue. Et donc toute la Bible, successivement mise par écrit, reproduit ces modes récitatifs hébreux qui sont sous la lettre, plus ou moins visibles selon les traductions. La traduction en grec des Septante, qui commença deux siècles avant le Christ, les traductions latines, la Vulgate, les traductions slavonnes, sont des décalques de ces textes sémitiques et sont faits pour être entendus, répétés, retenus. Cette culture intégrale de la connaissance de la loi des prophètes, donc qui groupe justement l'Ancien Testament, des textes sapientiels, je les nomme à part mais ils font partie, notamment furent marqués au 1er siècle par la polysémie, donc la multitude de sens que l'hébreu peut avoir, puisque l'hébreu, Eliane, tu diras si c'est vrai, c'est en fond une sténographie précoce, parce qu'elle ne contient que ce que... Enfin, ça va bien pour celui qui a fait la sténographie, mais ça va moins bien pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça liait la tradition orale à l'écrit. C'est un support, simplement, si on veut bien. Eh bien, au 1er siècle... Cette polysémie a créé une situation spéciale, une sorte d'émulation d'idées incroyable, de messianisme, d'eschatologie, donc de manière d'anticiper ce qui viendra, au sein du peuple d'Israël lui-même, qui était un peuple de paysans essentiellement. Et tout le monde parlait en fait de choses divines, de la Torah. C'était le souci permanent. Eh bien, dans l'Église orthodoxe, on rencontre un peu la même chose. On a des écrits que, quand on allait à l'Agora, à Athènes ou autre, on voyait un marchand de chaussures discuter avec un vendeur de légumes sur la divinité du Christ, ou bien des choses comme ça. Et donc, il y avait donc là un milieu beaucoup plus réceptif, parce que la tradition était présente, et aussi des réponses qui étaient données. Eh bien, ce milieu palestinien fut le moment choisi, du point de vue chrétien, par le Christ, Verbe incarné, et venu parmi les siens, dispenser l'enseignement de son Père dans les cieux. Un enseignement qu'il a donné publiquement et aussi dans les synagogues. Il est venu accomplir ce qui avait été préparé pour Israël, à travers Israël, pour tous les autres peuples du monde. Contre l'ignorance de l'histoire divino-humaine dont fait preuve notre époque, le témoignage du peuple élu est plus que jamais crucial à côté des églises chrétiennes. qui doivent également retourner à leur source de leur vocation. Rabbi Shaul de Tars, qui est apôtre Paul en d'autres termes, écrit: le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. De sorte que pour Paul, lorsque la totalité des païens serait entrée dans l'Église, tout Israël sera sauvé, car, affirme-t-il, les dons et l'élection de Dieu sont irrévocables. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Oui, on pense quelquefois que saint Paul écrit, disons, n'écrit pas selon le Targum, mais en fait, si on lit ses lettres, c'est rempli de citations qu'il a vécues, étant lui-même, ayant été lui-même initié par Gamaliel. Par exemple, que tout genou fléchisse sur terre, au ciel et dans les enfers, c'est typiquement des expressions targumiques faisait partie du vocabulaire, la manière de penser. Disons, la manière de penser le christianisme n'est pas sortie de la raison. C'est une révélation qui s'est incarnée dans une civilisation qui était porteuse et préparée pour ça. C'est la grande faute, disons, actuellement d'un certain christianisme, de se lancer dans des explications pour convaincre des gens avec des raisonnements. Les raisonnements sont là, parce que tous les plans de l'existence, tous les plans de la vie d'un homme sont concernés par ça, bien sûr, mais ce n'est pas d'abord le premier événement phénoménologique, disons, de la foi, ce n'est pas ça. Alors, pour nous, le Fils de Dieu qui siège désormais à la droite du Père demeure invisiblement présent. L'Esprit Saint, qui est le second paraclet, pédagogue, désormais acteur dans le cœur des fidèles à travers la liturgie et la prière, et conduit à la source de vérité. Voilà. Alors, je vais reprendre quelques points, mais on arrive bientôt à la fin, parce que je suis vraiment fatigué, non ? Ça va ? J'espère que c'était pas trop... enfin, que c'était quand même compréhensible. On me reproche quelquefois d'être un peu compliqué, c'est vrai d'ailleurs, mais... Alors... Oui.
Je peux juste vous demander de reprendre votre dernière phrase.
Au sujet de... de l'Église de Dieu et l'Esprit Saint. Ah, d'accord. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est un petit résumé pour nous, évidemment très court. Le Fils de Dieu qui siège désormais à la droite du Père demeure invisiblement présent. Il a dit à ses apôtres, je m'en vais, mais je serai toujours avec vous. À la fin de l'évangile de Marc. Ensuite, l'Esprit Saint, qui est le second paraclet, paraclet veut dire défenseur, etc., mais aussi interprète. Donc il y a le premier interprète, c'est le Christ qui a donné lui-même l'interprétation, ce qu'il a fait. Et ensuite, c'est l'Esprit Saint qui va nous donner la plénitude de l'interprétation, car les disciples n'étaient pas aptes à recevoir plus que ce qu'ils ont reçu. D'ailleurs, c'était un minimum pour passer le mauvais cap de la crucifixion. C'était vraiment très, très dur pour vivre ça. Alors, ici, l'Esprit Saint, second paraclet, ou pédagogue, désormais acteur intime dans le cœur des fidèles à travers la liturgie et la prière personnelle, les conduit à la source de vérité. Voilà. Alors, je reprends encore une fois les choses. Je fais quelques cycles comme ça, comprenez bien, pour vous habituer à toucher à des choses peut-être dont certains n'ont jamais entendu parler. Alors, différents points. 1. Toute l'écriture sainte est inspirée. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3,16 « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice ou la justesse. » Si on veut prendre probablement le Targum araméen. Parce que c'est une justice, mais ce n'est pas la justice légale. C'est une, Dieu a fait quelque chose de juste, en ce sens, la justesse. Eh bien, figurez-vous qu'à la génération qui suivit l'âge apostolique, l'Église a dû faire face à un grave problème créé par un fondateur d'une église gnostique qui s'appelle Marcion, né à Sinope, bon, qui vint à Rome vers 140 et en fut chassé en 144. L'idée qu'il en fut chassé, c'est que vraiment il avait commis beaucoup de choses désagréables. Il fut condamné ainsi que ses thèses hérétiques et, osons le dire, délirantes. Étant grec et hellénisant, il professait que le Dieu chrétien n'était pas le même que le Dieu mauvais vengeur qu'il voyait dans l'Ancien Testament. Donc, il fallait balayer l'Ancien Testament et on partait à zéro avec le Christ. Alors, comment ils célébraient? Est-ce qu'ils faisaient? Alors ça, vraiment, moi, je vous donne ma langue au chat, je ne comprends pas. Ils n'avaient pas de mots pour prier au deuxième siècle, autre que, oui, peut-être quelques lettres de Paul, puis des débuts d'évangiles. La source Q, par exemple, certainement était disponible. Mais c'était suffisant. Donc, c'était en fait un gourou. Hein. Ça, il faut dire, c'était vraiment... Malheureusement, et même de nos jours, il y a des gens très savants qui estiment que Marcion est quelqu'un de très très intéressant, qui va nous révéler la vérité du christianisme, etc. Tout ça, c'est des délires aussi. Il y a des gens, même très bien, qui se sont laissés attraper par ce type de pensée un peu ésotérique, notamment Jung, puisqu'il a fait porter à Dieu le poids du mal. Vous voyez, c'est quand même, ça mène loin, parce que je pense que toute notre attitude dans la vie dépend finalement de notre foi. Bref, Marcion fait, paraît-il, une très grande église, elle a heureusement disparu, mais on n'a pas gardé ses livres, tellement il faisait horreur, c'est dommage, on aurait pu voir là jusqu'où va le délire humain. Il a été contredit, bien sûr, par Saint Paul déjà, et ensuite par la foi de Nicée-Constantinople. Là, je voudrais dire que tant que les chrétiens n'accepteront pas de se retrouver dans le symbole de foi de Nicée-Constantinople et feront tout pour contourner les choses, pour ne pas le dire, mais en dire un autre ou le modifier, ce sera très difficile, parce que c'est dans ce symbole, par exemple, il est dit, et pas dans le syndrome de Nicée, qui est la première version, il n'était pas fini, il dit que l'Esprit Saint, qui est Dieu, a parlé par les prophètes. Alors, l'Ancien Testament était le premier texte saint lu et prié dans les églises apostoliques, héritières du modèle synagogal. Puis les lettres de Paul, puis les évangiles, la source Q d'abord, les évangiles, les autres lettres d'apôtres, les actes et l'Apocalypse. Tout ça dans un temps assez bref, de quelques dizaines d'années. La liturgie orthodoxe fait une large place, usage des psaumes, comme les autres églises chrétiennes, je l'espère. On y lit abondamment l'Ancien Testament, dans les offices de vigile, de fête notamment. Après Origène, un grand commentateur, il n'est pas exactement un père de l'Église, parce qu'il a commis des idées qui ne sont pas acceptables, mais tout le monde s'en est inspiré, parce que c'est un commentateur absolument remarquable de beaucoup de livres. Alors, après Origène, les pères de l'Église, dont Saint Jean Chrysostome, je m'en souviens aussi Saint Ambroise, on voit maintenant publier des textes qui n'étaient pas accessibles il y a 30 ans, ils sont vraiment passionnants, de ces auteurs, qui ont commenté l'Ancien Testament comme étant le Targum de l'Évangile, tout simplement. Le texte grec de référence de l'Ancien Testament de l'Église orthodoxe est toujours celui de la traduction des Septante, apprécié par ses formules à caractère plus universel. Parce que l'hébreu est très concret et la traduction des Septante a une portée qui s'est élargie. Et elle est inspirée naturellement. Et moi-même, j'utilise volontiers un petit clin d'œil à ma gauche, la Bible du rabbinat français. Parce qu'on y trouve là exactement le langage qui n'est pas un langage savant, qui est un langage qui a une continuité de vie entre l'expression, disons, hébraïque et les 70. C'est une synthèse en fait. Ça, c'était toute l'écriture sainte est inspirée. Un point commun indéniable, alors très très important. On ne pourrait pas faire une telle conférence en pays musulman aussi facilement. Quoique, il faut étudier le soufisme pour voir que le soufisme a beaucoup intégré des éléments judaïques notamment et chrétiens certainement aussi. Ensuite, deuxième point, Adam était monothéiste. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup plu dans le livre que je vous ai cité, le grand ouvrage commun de l'ambassadeur d'Israël. Oui. Tout c'était bien. Adam était monothéiste, je me suis dit, mais qui était là pour dire qu'il était monothéiste? Alors, oui, bien sûr, puisque le récit de la Genèse nous indique, le récit lui-même est monothéiste. Alors déjà, si ce récit, la première fois où il est apparu, si c'est inspiré, ça veut dire qu'Adam était monothéiste. Alors, c'est très très intéressant que le monothéisme apparaît avec le récit de la Genèse, apparaît avec la notion de la création, immédiatement. Et les dieux créa. Les dieux parce que c'est Elohim. Il faut bien voir que notre esprit humain, qui est fait pour Dieu, a besoin de distinction. Parce que le péché nous a enfoncés dans la confusion et l'obscurité. Pour remonter, il faut des distinctions. Et la première distinction, c'est entre l'incréé et le créé. Et elle vient en même temps que le monothéisme. Si on a déjà compris ça, on a déjà pratiquement tout compris. Parce que, vous voyez, le plan divin, tout est conçu comme dans un gène. Et finalement, la réalisation finale est contenue à la base. Il ne faut pas confondre, bien sûr, l'idée que le monde et l'humanité ont été créés par Dieu, incréés, d'une façon littérale, et puis faire comme le créationnisme le fait aux États-Unis notamment, mais pas que ça vient aussi chez vous, comme une interprétation littérale des jours de la création. Il faudrait que ce soit vraiment un jour, le lundi tel. Enfin, des choses qui qui introduisent la schizophrénie, et tous les gens qui tombent dans ce créationnisme, ils sont vraiment sous influence d'un gourou qui leur dit n'importe quoi et ils boivent ça comme la vérité. Ça n'a rien à voir avec la profondeur des traditions et même, je suis sûr, de la tradition musulmane. Troisième point, la tradition éloïste. Elle désigne Dieu par un nom pluriel. Le verbe qui suit étant accordé au singulier. On la voit d'abord dans le texte initial, les premiers mots, et ensuite, un moment très très intéressant, lors de l'apparition de trois anges messagers à Abraham, sous le chêne de Mamré. Abraham reconnaît en eux une visite du Seigneur, qui lui dira d'ailleurs des choses importantes sur sa descendance. Il sera multiple comme les étoiles. Et Abraham s'adresse au Seigneur dans le texte, à ses autres qui sont trois, il s'adresse au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, l'hospitalité d'Abraham était reproduite comme telle à Ravenne, au 5e siècle, à Sainte-Marie-Majeure, à Rome, donc Sainte-Marie-Majeure à Rome. Et ceci est à vérifier, mais je suis absolument sûr que je crois l'avoir vu dans des quelques reproductions rarissimes, malheureusement, du programme iconographique extraordinaire de la synagogue de Doura Europos du 3e et 4e siècle. On en reviendra sur cette représentation iconographique d'une synagogue, ça peut surprendre. C'était pourtant dans les débuts du judaïsme, certainement une chose très très importante. Enfin, pour moi, ça l'était. On trouve donc cette hospitalité d'Abraham, et je l'ai vu aussi par exemple à Patmos ou autre. Abraham est là, il y a une table, il y a trois anges, Sarah est là quand elle n'est pas à la cuisine, parce qu'on s'est abrégé un personnage, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il apporte les éléments pour manger. Et voilà, et la table en fait est ouverte, et quand on regarde, on a l'impression qu'on est invité à cette table. Elle a donné lieu au XVe siècle à une icône qu'on appelle icône trinitaire, bien que c'est en fait une triade, celle de Andrei Rublev, Saint Andrei Rublev. Si vous avez été à Martigny, vous avez vu une copie de cette icône, qui n'est pas à la hauteur, à mon avis, de l'original. Et elle est tout à fait remarquable. Alors, que dit cette icône? Bien sûr, si on connaît le texte, on dit, bon voilà, c'est Abraham s'est adressé à ces trois anges en lui disant « Le Dieu, Seigneur ». Et donc, on est en face du Seigneur, qui est trois personnes. Alors, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais on prend conscience de la vie divine. Ces trois sujets hypostatiques, c'est d'abord des personnes qui sont venues nous rencontrer, qui nous invitent à leur table, c'est ce que représente cette icône. Marcel Jousse, décidément toujours lui, a démontré qu'au 1er siècle, dans les synagogues araméennes, la triade Père, Fils et Paraclet, donc Abba, Bera, Paraclita, étaient des noms techniques de trois personnages de la tradition palestinienne étant présents pour la traduction dans les synagogues et dans les familles et dans la nation. Pour cette expérience vécue de transmission de la Torah, il y avait cette maison des Abbas de la terre, décalquant et expliquant la Torah, qui appelle une symétrie transcendante la maison de l'Abba des cieux. Soit le geste du parlant, du parler et du souffle. Cette lecture séquentielle en hébreu par l'Abba qui faisait l'Abba de bouche. Pour aller dans le micro, excusez-moi. Donc, cette lecture séquentielle en hébreu de l'Abba de bouche à oreille, la traduction séquentielle en araméen par bribe, avec annonce orale cantilée pour l'assemblée, par le Béra, le commentaire par un médiateur interprète, le Paraclita, était vraiment pratiqué ainsi. D'ailleurs, dans l'Antiquité, l'araméen fut remplacé par le grec dans certaines communautés de la diaspora, peut-être pas tous, qui reproduirent la même séquence. Actuellement, le système m'avait expliqué, peut-être un peu simplifié, parce qu'on lit un texte entier, puis après la traduction en entier. Alors, la transmission de la Torah par la bouche en Palestine est un prolégomène, des prémices, une sorte de matrice, une matrice de la révélation chrétienne. Si vous lisez, et lisez l'évangile de Jean, la prière sacerdotale, vous y reconnaîtrez les relations d'un père qui enseigne à un fils qui doit tout à son père, et qui enseigne, et qui entraîne tous à participer à la gloire du père qui enseigne. C'est assez extraordinaire. Donc, ces rites qui sont inscrits dans la tradition judéo-chrétienne étaient tellement forts qu'ils ont été répétés dans toutes les circonstances qui le permettaient. J'arrive bientôt à la fin. À Rome, on traduisait, par exemple, la liturgie en petit bout en grec, immédiatement en latin. On disait « Agios Theos », puis après « Saint Dieu », « Agios Ischiros », »« Saint Fort », »« Agios Athanatos », »« Saint Immortel ». On trouve ces séquences dans les vieux sacramentaires où on disait d'abord en grec, puis en latin. Il y en a un qui est très connu, c'est les lettres de Saint-Germain de Paris qui sont effectivement du VIe siècle. Bien sûr, il y a toujours des savants pour contester ceci, mais J'ai vraiment regardé les choses à fond, j'en suis sûr. Donc, ces engrammes ont passé. Et dans les chants byzantins, il y a une forme particulière qui imite tout à fait ceci. Ça s'appelle la structure du canonarque. Le canonarque énonce donne un énoncé que l'on peut retenir, pas trop long, d'une manière claire. Ensuite, le chœur reprend le même énoncé. Puis le canonarque recommence et le chœur répète. Et ainsi de suite, on peut aller assez loin. Et ensuite, tout le monde répète l'ensemble. Ce procédé didactique et pédagogue, est extraordinairement personnel, extrêmement fort. Et il nous donne, par exemple, pour les textes dogmatiques, la possibilité, non pas d'essayer de se souvenir d'idées, mais d'intégrer ce qu'il nous faut pour les énoncer dans notre propre cœur. Et quand ils viennent spontanément, je vous assure qu'on y croit beaucoup mieux. Je prends le quatrième point, il y en a encore deux, mais ils sont plus courts. L'historiographie biblique iconographiée et l'iconographie chrétienne. Alors la loi du décalogue prescrit de ne pas faire d'image idole pour l'adorer et même de ne rien représenter. Mais c'était pour un âge spirituel du peuple d'Israël qu'il fallait dégager de beaucoup de choses. Dans la synagogue du 1er siècle et plus tard, il y a eu ces représentations qu'on voit dans cette fameuse synagogue de Torah Ouropos. Il y avait même deux couches, une est au début du 2e siècle, si vous imaginez. Ces fresques ont été partagées en deux universités, Yale et une autre, pour éviter qu'elles ne soient détruites. Mais malheureusement, on n'en a pas encore, comme pour les histoires de manuscrits de Qumran, ça a pris des années avant qu'on sache ce qu'ils contenaient. Là, on n'a pas encore c'est pas encore décodé, on n'a pas sur Internet, mais ça viendra. Et une quantité de représentations s'y trouve. C'était un mur absolument couvert. On sait que c'est une synagogue parce que c'était du côté de Jérusalem. Les synagogues sont tournées du côté de Jérusalem. Et il y a l'image du tabernacle au milieu, et etc. Et toutes les... Donc, c'est une manière de représenter toute la Bible. C'est une explosion artistique bouleversante où l'on trouve toutes les scènes des ancêtres, des patriarches, la première alliance, représentées souvent dans un style symbolique, avec les gestes de leur vie. Ce furent autant de prototypes de l'iconographie chrétienne, qu'il s'agisse d'enluminures, de manuscrits et plus tard d'icônes. Quand Dieu se manifeste à Israël, il y a cette notion très très forte de la transcendance. On ne dit pas le nom de Dieu, etc. C'est quelque chose. Mais Dieu agit dans notre existence. Quand Élie appelle que le feu descende sur l'autel de Baal qu'on avait mouillé pour convaincre la puissance du Dieu vivant, le feu descend, là, le feu à cet autel. Ceci est représenté sur cette iconographie judaïque. Et franchement, quand on voit ça, on se dit ça, c'est vraiment tout à fait orthodoxe. C'est-à-dire que pour nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. On reprend d'ailleurs ces schémas, puisque les énergies, Dieu est présent dans ses énergies, quand il est ad extra, quand il sort de lui-même pour rencontrer l'homme, quand il agit. Et tout ça est une lecture, en fait, tout à fait remarquable. J'espère qu'un jour, tout le monde pourra apprécier l'ensemble de ces fresques. La liturgie eucharistique chrétienne, ça c'est le point suivant, est d'origine synagogale. Notamment, vous savez certainement que la liturgie orthodoxe, comme toutes les liturgies anciennes, est formée de deux parties, la liturgie de la parole, suivie de la liturgie des fidèles, ou liturgie eucharistique. Or, la première partie des liturgies est empruntée au culte synagogal. Citons la première chose, des gestes Et sa traduction, c'est souvent des gestes. Le baiser de la Torah, sa sortie en procession et sa déposition sur la table, auquel correspond exactement le début de la liturgie byzantine, avec les antiphones, les psaumes qui sont chantés, accompagnant la sortie de l'évangile et l'entrée dans le sanctuaire du clergé avec l'évangile, posant ensuite cet évangile sur l'autel et l'embrassant. La partie lecture qui suit comprend, pour le judaïsme, la Torah suivie d'autres péricopes. Pour l'Ancien Testament, pardon, pour la liturgie byzantine, l'Ancien Testament est tombé, mais on le lit beaucoup dans les offices des vêpres et des vigiles. En Gaule, il était pourtant bien présent, il y avait trois lectures. Alors, c'était souvent l'Ancien Testament, l'apôtre, bien entendu, et l'Évangile pour la célébration chrétienne. Le point 6, c'est l'office juif à la lumière du vendredi soir. Elle est la lumière du vendredi soir. Les liturgies chrétiennes des heures ont intégré l'office juif de la lumière dans l'office des vêpres en le dotant d'un hymne universel, le Fos Hilarion, lumière joyeuse. Il comprend aussi le psaume 140 et 141 qui est l'offrande de l'encens du soir. Et c'est vraiment des gestes qui dépassent même la tradition juive. On trouve ces gestes, c'est le fait d'allumer une lampe le soir. Étonnant puisque la raison d'être de ce service, c'est que la Genèse dit il y a un soir, il y a un matin, et donc on commence un nouveau jour, le soir avant, bien entendu. Voilà. Alors c'est la même chose pour nous. Les vêpres bénédictines, exactement les mêmes éléments. Et enfin, pour ces vêpres, juste mentionner que je commençais par la lecture du psaume 103-104 que nous avons chanté. Et oui, on aurait dû quand même voir les choses ensemble, parce que normalement, on doit avoir la même corde entre homme et femme. Et c'est un peu de ma faute, j'aurais dû prendre autrement, vu ta tessiture. Donc, vous voyez, ce sont des prières qui étaient universelles dans tout le monde méditerranéen, et les structures des vêpres byzantines, au départ, quand on prend les noyaux qui l'ont composé, et celles qu'on avait à Arles, par exemple, c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, Saint Jean Cassien, qui est un grand témoin des usages byzantins et des usages gaulois, montre bien que ce sont les mêmes. Dernier point, je vais traiter quand même, pour être complet, les fêtes de pèlerinage, que sont Pessah, Pâques, Shavuot, le don de la Torah, l'offrande des moissons offrandes au temple, et Sukkot, les tentes à la fin du cycle agricole en mai, ont des parallèles dans les fêtes de l'année chrétienne. Pour une raison théologique, d'abord, elles sont décalées, datant de la période du Concile de Nicée. Le calendrier chrétien orthodoxe s'est arrangé pour que la Pâque chrétienne tombe toujours après la Pâque juive, puisque pour nous, c'est un accomplissement, sans annuler la Pâque juive. Voilà, c'est pourquoi il y a des fois un décalage, aussi avec l'Occident qui ne tient pas compte de cet aspect. Alors, les deux premières fêtes sont marquées par, chez nous, par la résurrection du Christ, c'est le moment historique où c'est arrivé, et puis, pour la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit voyez le parallèle, la Torah reçue sur le Sinaï, la descente de l'Esprit-Saint paraclet au milieu des apôtres. Ils sont énormes. Les lectures que l'on fait le samedi du grand sabbat qui précède la vigile de la résurrection, on parlait tout à l'heure avec vous, père de la vigile pascale, avec l'exultète, ces lectures qui précèdent ceci font allusion à la Genèse, notamment à la messe des eaux, la délivrance d'Égypte, la protection divine accordée par le sang d'un agneau. On avait badigeonné les linteaux, rappelez-vous, pour épargner les Israélites, les enfants, oui, et les parents. Et la précipitation des armées de Pharaon dans la mer, et ce sont des hymnes qui sont célébrés chez nous, On disons bien qu'il s'agit de la victoire spirituelle du Christ sur la mort. Parce que, pour ne pas tomber dans les erreurs de croire que Dieu est à l'origine du mal, et lire pourtant l'Ancien Testament, où on voit parfois un Dieu qui manifeste sa colère ou qui extermine des gens, il faut avoir une interprétation symbolique. Ces événements historiques ont-ils lieu avec la même ampleur qu'ils signifient? On sait bien que ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, quand on les lit, on doit absolument y voir une lutte de l'amour et de la vérité contre les puissances du mal. Dans le monde noétique, dans le monde des esprits, dans le monde angélique. Et on y voit en fait la lutte contre les passions. C'est ainsi que la plupart des ascètes orthodoxes nous disent de lire ces livres. C'est contre les forces négatives qui sont en moi que ces textes mettent en scène, en fait, dans ce type d'événement. Voilà, j'ai terminé. Je ne connaissais pas du tout, alors je l'assure.
Alors, c'est à travers vos lectures et à vos discussions.
Bah oui, mais surtout,
vous avez quand même fait
nous sommes tous de la même race d'Adam, donc ça c'est une chose certaine. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas rester sur ces positions. Et je crois que la séparation... Vous voyez, ce que j'ai vécu comme jeune homme, disons, je vais peut-être le transposer ici, on ne doit pas rester sur ces positions. C'est impossible. Il faut... Là, maintenant, on est en marche vers des choses importantes qui se passeront. Peut-être on les verra, peut-être on ne les verra pas. Dans ce monde, la transfiguration du monde est importante, donc on ne va pas rester des églises séparées et des choses comme ça. C'est pas possible. Surtout si c'est antagoniste. Normalement, l'Église, elle est faite pour être multiple, etc. Elle se réalise localement. La plénitude, la catholicité, c'est à chaque endroit, etc. Une personne unie au Christ est Église. Une paroisse est Église. Un évêché est Église. Plusieurs églises qui font un patriarcat ou un archevêché sont Église. Ils ont toujours la même... C'est toujours la même chose, comme dit poupées russes les unes dans les autres. Et la première chose, c'est l'homme et sa liberté, et ce qui est aussi sa tradition, ce qui fait partie de lui.
En gardant chacun sa tradition, c'est le but aussi de nos réunions. On est bien d'accord pour cela.
Oui. Donc, Eliane a dit qu'il faut qu'on garde chacun sa tradition. Oui, mais pas définitivement. Nous serons dans le royaume des cieux. Pas définitivement. Nous serons dans le royaume des cieux tous ensemble. Il y a plusieurs maisons dans la demeure du Père. Et d'autre part, ce qu'un homme peut éprouver dans sa vie, qu'il soit orthodoxe ou n'importe quelle autre tradition, Ce tout petit morceau de cette vérité extraordinaire qui sera le cadeau fait à l'humanité. Donc, ce qui nous rassemblera et que nous n'aurons pas encore trouvé dans cette terre sera tellement plus grand que tout le reste deviendra très relatif, je vous assure.
Alors, monsieur, vous êtes le bienvenu, monsieur.
Merci, bonsoir à tous. Merci, Père. Faut-il être juif pour comprendre le Nouveau Testament? Parce que vous avez parlé de tradition orale. L'oral est très important. Parce que dans mes...
Parce que le micro, il doit être près de la bouche.
Ouais, comme ça, oui. Voilà. La tradition orale, c'est une chose. Verbal, et je me rends compte, quand je suis allé en Terre Sainte, que l'origine de tout est sur la même terre. Et le peuple élu, c'est peut-être l'humanité aussi. Alors, on nous a envoyés pour témoigner que nous sommes un. Et le un, la séparation, c'est en vue d'une unification. Il y aura une uniformisation de chaque religion et quelque chose d'universel qui arrive. Accueillons-le et préparons-nous à donner des conditions pour que Dieu habite en nous. Alors je suis très heureux d'être avec vous et parce que je travaille dans ce sens. J'ai vécu en Asie, dans le bouddhisme. Ma mère y était bouddhiste, mon père était catholiciste et j'ai eu l'enseignement des maîtres catholiques, chrétiens, et j'aime beaucoup l'orthodoxie. Et parce que le concile de Constantinople rappelle quand même qu'on enseignait la réincarnation. Et on, par une différence d'une voix, on l'a supprimée. Jésus... Voilà. Parce que Jésus a donné des preuves. Quand on dit, est-ce que c'est Élie qui doit revenir? On monte à bord, hein, la transfiguration. Et quand il y a eu la transfiguration de Jacques et Jean, eh bien, ils avaient un vêtement tout blanc. C'était leur aura qui avait changé. Voilà. Tout est symbolique, et souvent on dit le symbolisme, oh ben, c'est un petit peu diminué en disant, ah ben, c'est un symbole. Mais pour moi, le symbolisme a une très grande valeur. Je vous remercie infiniment.
Merci de votre témoignage, monsieur.
Cette notion de pluralité et d'unité me chiffonne toujours lorsqu'on en parle. Je pense que Dieu est relation d'amour, d'abord. C'est l'image de l'amour trinitaire. Mais pour être un dans l'amour, il faut être plusieurs et il faut être différent pour s'aimer les uns les autres.
Alors, je ne peux qu'approuver ce que vous venez de dire, sauf que la différence pour nous, elle est vraiment personnelle. Elle est tellement absolue que, à la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu séparément sur chacun des présents. Il y avait aussi des femmes. Voilà. Et donc, chaque homme a son histoire d'amour avec Dieu. Et c'est ça le vrai pluralisme. Maintenant qu'il y ait une diversité dans l'unité, ça c'est vraiment l'image de... Mais souvent on entend diversité comme quelque chose de différent. Ça veut dire c'est la diversité qu'on a par exemple à l'ONU. Alors l'ONU c'est une très belle chose parce qu'on met des gens qui ne sont pas d'accord entre eux pour essayer de ne pas créer plus de problèmes qu'il y en a et en résoudre si possible quelques-uns. Donc, c'est une œuvre humaine tout à fait remarquable. Mais on reste toujours dans le compromis. On reste, c'est de la politique, on reste dans quelque chose qui n'est pas cette relation d'amour dont vous avez parlé. Cette relation d'amour, elle respecte l'intégrité totale de chaque être dans ce qu'il est.
Voilà, et donc c'est pourquoi le monde spirituel va bien au-delà de ce que le monde des hommes est capable, disons, de mettre en œuvre, etc. Alors, moi, là où je ne suis pas d'accord, si vous voulez, c'est quand on dit, bon, par exemple, catholicisme et protestantisme, c'est une donnée qui ne changera jamais, il faut qu'il y ait une église pour ceux qui pensent comme ci, une église pour ceux qui pensent comme ça. Moi, je pense que ça fait beaucoup de mal. Le mal que je vois, disons, à ma porte, c'est lorsqu'il y a des mariages. Comment voulez-vous qu'on en impose une telle absurdité à des jeunes qui n'ont pas les moyens de la défaire? Et s'ils y arrivent, bien, ils deviendront saints par ce moyen, mais combien sont-ils à abandonner une vie spirituelle de couple parce qu'ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas la tradition, ils n'ont rien? Et c'est un désastre. Voilà, la séparation des églises est un désastre, elle est contraire à l'évangile de Jean. Alors, nous n'avons pas fait exprès d'y être. Hein. Je vous rappelle qu'elle était là déjà avant que je sois né, avant que vous soyez né. Et il y a eu quand même des erreurs à apprendre dans l'histoire. Quand il y a un divorce en vue, que peut-on faire si on se dit, il y a peut-être encore une chance, un joker pour éviter un éclatement de la famille? Eh bien, c'est de se dire, ensemble, à quel moment étions-nous heureux, ensemble? Et que s'est-il passé depuis? Et à ce moment-là, on peut dire éventuellement ce qui s'est passé depuis, à changer notre regard l'un sur l'autre, c'est du passager, c'est quelque chose qui demande le pardon ou quelque chose d'autre, de changer quelque chose à notre manière d'être, à nous deux, et de retrouver cette union. Union dans la foi, c'est pour moi, c'est l'unanimité. Ce n'est pas une doctrine qui doit mettre tout le monde au garde à vous. On est bien d'accord.
Je voudrais avoir une explication entre le patriarcat de Constantinople et celui de Moscou. Là, on ne connaît pas grand-chose.
Alors, dans l'Église orthodoxe, nous n'avons pas, comment dire, fait de théorie de nos erreurs, mais on a vécu d'un certain nombre. Alors, il y en a une qui est le fait que la situation très très horrible du patriarcat de Constantinople en Turquie, qui s'est vu priver tous ses fidèles de son territoire d'action, de toutes sortes de choses, a quand même maintenu le drapeau et est resté présent, et est dans un monde très très tendu, et ne peut pas survivre sans apport financier extérieur. Alors, une des solutions, c'est que les Grecs qui ont dû partir de Turquie parce qu'ils n'étaient pas les bienvenus, ou qu'ils ne pouvaient pas se réaliser dans ce pays, je passe sur les lois qui existent encore, qui font que la Turquie n'a aucun droit de venir dans l'Europe avant de s'être mis en ordre là-dessus. Je ne sais pas combien de milliers de procès il y a pour une discussion de savoir si un mètre carré appartient à l'État turc ou bien à un privé. Pourquoi? Parce que les accords de Lausanne, qui ont été une catastrophe, ont fixé une fois pour toutes que les orthodoxes avaient des territoires bien déterminés et qu'ils n'en sortiraient pas. Mais ils étaient libres dans ces territoires, c'était ça, ce compromis. Et donc, bien sûr, tout le monde croit, une industrie est bien en train de faire un deuxième bâtiment, etc. Et ça peut. Et par exemple, le patriarcat n'a pas le droit d'occuper une grange à côté de sa construction parce qu'elle n'est pas sur le territoire déterminé par les accords de Lausanne. Donc c'est vraiment une perturbation très grande qu'ils ont affrontée. Il y a eu un patriarche qui a été lâché, il y a toutes sortes de choses. Donc, de ce fait, le patriarcat a pris une certaine envergure et s'est dit, nous pouvons exister à l'intérieur, existons à l'extérieur, puisqu'il s'est rappelé, à juste titre, que dans la manière de fonctionner de la Pentecôte, il y a toujours un président. Dans le collège apostolique, ce fut Pierre qui donnait. Il était président, mais il n'était pas chef des apôtres. Eh bien, le patriarcat de Constantinople a dit, eh bien, nous avons pour l'ensemble des personnalités d'église présentes, il y en a 16 églises indépendantes ou autocéphales, on a cette mission de faire l'unanimité.
Et donc, ils se sont quelque peu octroyés. Ils ont pris l'habitude de penser qu'ils pouvaient créer des archéologies grecques à l'étranger. Or, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionnent les canons de l'Église. Normalement, lorsqu'on est dans un nouveau territoire, eh bien, on crée une nouvelle Église. On lui donne aussi rapidement que possible, ça peut prendre 2 siècles, mais ça peut être rapide, son autonomie, elle rejoint les 16 premières, vous voyez. Donc, il est tenu, en fait, de garder cette diaspora pour survivre. Et il y a une opportunité en Europe pour lui d'avoir encore des apports de ce point de vue et de pouvoir rayonner, ce qu'il ne peut pas faire chez lui. Contester d'ailleurs ce rôle par l'État turc qui lui fait la guerre, il est interdit de faire ça. Il le fait quand même. Donc les autres églises ont conscience de ce drame de Constantinople. Mais ils n'admettent pas en fait fondamentalement que Constantinople veut décider de tout, que rien ne se fait sans Constantinople. Alors, il y a des contestations, et jusqu'à la fin du siècle passé, c'était assez musclé. Maintenant, je vois qu'il y a encore des points, des endroits géographiques où il y a des tensions, parce que, voilà, les orthodoxes parlent, entre eux ne se parlent pas, mais quand ils font front commun, quand ils parlent à l'extérieur, c'est assez drôle. Mais je vois un grand changement qui s'est produit chez nous et qui est un signe de quelque chose de vraiment qui va dans le sens d'un véritable apaisement, c'est que maintenant, les églises qui sont venues s'occuper de leurs propres citoyens ou ex-citoyens ne restent plus fermées sur elles-mêmes et qu'elles concélèbrent entre elles. Et il y a beaucoup de déplacements, vous avez vu, d'archevêques, etc., avec de magnifiques habits qui viennent les uns chez les autres, etc. Ça prend des dimensions extraordinaire, pas forcément pour les chrétiens de base, quoique les liturgies soient très belles, mais c'est très important pour rétablir une orthodoxie unie, transjuridictionnelle, qui soit l'église locale. Il y a un autre frein à la réalisation de cette église locale, c'est l'église romaine, parce qu'il y a une sorte de pacte de non-agression. L'église romaine ne veut pas qu'il y ait une autre église locale qui vienne sur son territoire. Les orthodoxes sont embêtés parce que d'une part, ils ont dit que, assez justement d'ailleurs, que l'Église romaine n'est pas schismatique, mais qu'il y a de graves problèmes avec l'institution, tels qu'on ne peut pas s'arranger si on ne développe pas des choses fondamentales, quitte à les repenser ensemble. C'est une attitude, je trouve, magnifique, un bras tendu qui pour l'instant n'a pas été véritablement saisi, sauf par des précurseurs. Il y a des précurseurs, bien sûr, partout. Voilà. Donc, la situation peut être un peu coincée de ce point de vue. Alors, les églises orthodoxes, normalement, elles vivent en bonne harmonie dans leur pays, les unes avec les autres. Quand elles sont ensemble sur un territoire, il faut qu'elles s'arrangent, et on en est à ce stade. Et je vous assure qu'il y a énormément de progrès qui a été fait. Moi, j'ai la chance d'appartir à un patriarcat de Serbie qui ne milite pas dans les zones d'influence. C'est une église diocésaine qui s'occupe de beaucoup de fidèles qui sont en Suisse, la plus nombreuse. Et nous sommes une paroisse de convertis qui a le droit de célébrer en français, qui est là pour des raisons théologiques, patristiques, et qui est considérée comme les autres, et puis on a des échanges très intéressants. Je appartiens à la famille orthodoxe du canton, nous sommes tous les uns chez les autres, et nous célébrons ensemble, nous visitons à Genève, à Valdesheim, partout, à Berne. Donc les choses changent énormément.
Je vous demandais, dans cette foulée, avez-vous une forme de consistoire au niveau, disons, une organisation où vous dépendez peut-être comme d'un chef spirituel supérieur voilà. Voilà.
Alors, les églises autocéphales ou autonomes, elles ont ce qu'on appelle un synode. Le synode est composé exclusivement d'évêques. Dans l'église russe, il y a quelques professeurs et quelques laïcs. C'est arrivé dans l'histoire qu'il y ait des laïcs qui soient dans les synodes, mais ils ne votent pas en général. Alors, il y a dans l'église orthodoxe cette conception, qui vient des origines, que l'épiscopat est attaché le devoir de surveillance de la foi. Et c'est-à-dire que c'est l'organe qui est là pour trancher de certains problèmes. Alors, ce n'est que quand l'épiscopat entier agit qu'il reflète la volonté divine. Mais ça commence déjà au sein d'une église pour ce qui est de ses propres affaires. Alors, je vais vous donner un exemple. Pour l'élection du patriarche en Serbie, les évêques ont fait, comme partout ailleurs, acte de candidature. Leurs confrères, ils sont 36, quelque chose comme ça. Enfin, je ne suis pas sûr du chiffre, hein. On ne voudra pas de ne pas le publier. Ont dû choisir des candidats. Ils en ont retenu deux, je pense. Et ensuite, qui étaient recevables par leur qualité personnelle, selon l'opinion des évêques qui ont prié pour ça. Et ensuite, on a mis un petit billet, on a noté le nom de la personne, et on l'a posé sur l'autel pendant la divine liturgie, on a envoyé un jeune moine tirer le billet. Voilà comment l'élection s'est faite. C'est comme dans l'icône de la Pentecôte, la cathèdre du Christ est laissée libre à Dieu. C'est lui qui mène l'Église. Et parfois, dans les conciles œcuméniques qui avaient trait à la doctrine, ce n'était pas le plus, comment dire, les personnages en fonction qui étaient les premiers à confesser juste. Parfois, c'était des éléments presque extérieurs. Dieu s'est fait entendre, même dans un collège épiscopal qui n'était peut-être pas sur le bon chemin, puisqu'il y a beaucoup de conciles qui ont raté, on les appelle brigandage. Et voilà, donc tout ça est suspendu, et surtout ce qui est très important, c'est que ces évêques sachent qu'ils sont, quelque part, ils ont la fonction de révéler ce que Dieu dit, mais que ça dépend de leur propre pureté intérieure et leur honnêteté dans cette fonction. Et on demande à des saints, si possible, de pouvoir dire la parole divine. Voilà. Et alors après, une fois que quelque chose sort, c'est le vote d'adhésion qui est la signature, en fait, du pacte. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas de commission qui règle des problèmes liés à la foi. On déblaye avec des experts, etc. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais au moment clé, c'est l'épiscopat. Au moment où on sacre un évêque, il est évêque d'une région pour son église et du monde entier. Alors, c'est très intéressant, même en Gaule, c'était pareil, Saint Avitus de Vienne se considérait comme évêque du monde entier, comme Saint Cyprien aussi, et ça n'empêchait pas d'intervenir à Jérusalem. Il avait d'ailleurs pas mal de lettres qu'il envoyait là-bas pour différents sujets, etc. Il se sentait responsable de l'ensemble de l'Église. Il a vécu au 5e siècle à Lyon.
Merci. Pour vous aussi, bienvenue, puisque c'est la première fois. Merci et bonsoir à tous. Donc, j'aimerais revenir au texte. Vous avez cité un moment la Genèse et vous avez dit que Adam, en fait, était monothéiste, si j'ai bien compris. C'est là-dessus que je voulais revenir, parce que si on regarde les textes... bon, je ne suis pas juive, hein, et je n'ai pas fait beaucoup d'hébreu, mais je connais quand même un petit peu. Si on regarde les textes de l'Ancien Testament directement... dans la Bible du rabbinat, par exemple, on s'aperçoit, avec les études qui ont été faites, qu'en fait, ces textes ont été repris aux civilisations antérieures, comme les Akkadiens et les Sumériens. Or, ces peuples-là n'étaient pas monothéistes, ils étaient polythéistes. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre point de vue ?
Oui. Alors, votre questionnement est très intéressant. Il faudrait faire un petit peu une recherche pour être précis, pour savoir quel est le récit de la Genèse, comment était-il écrit, est-ce qu'il était aussi complet, et est-ce qu'il avait la forme que l'on trouve dans la Bible du rabbinat français. Certainement pas. Voyez-vous, il n'était pas la même chose, mais il y avait des éléments. Parce que la révélation, elle est aussi portée par les anges et elle pouvait atteindre plusieurs peuples. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans le Targum palestinien, j'ai dit que la Torah a été présentée à l'ensemble de l'humanité. Alors qu'il y ait eu d'autres endroits où les mêmes choses ont pu exister, approximativement, plus ou moins bien rendues, etc., c'est très possible. Je dis qu'il est monothéiste parce que le texte lui-même est monothéiste. Vous ne pouvez pas le nier. En tout cas, si on fait cette distinction entre créé et incréé, qui est évidente par l'analyse textuelle, alors, parce que Dieu est au pluriel, n'est-ce pas ? Elohim, comment on dit ? Créé, Béa, Béra, Para. Voilà. Donc, alors peut-être on trouvera une fois des inscriptions cunéiformes ou je ne sais pas quoi, avec un récit de la Genèse. Sera-t-il le même ou autre ? Je ne sais pas. Le psaume 103 dont j'ai parlé est un psaume qui est tiré d'une prière au dieu égyptien Soleil. C'est ça ? Et alors on peut voir vraiment que c'est décalqué, mais seulement une partie. Donc il y a toujours cet élément d'interprétation d'interprétation surdéterminée par le Saint-Esprit. Mais que les éléments de base, comme par exemple Mozart, c'est Mozart, les notes dont il a employé, les instruments qu'il a employés sont les instruments qu'il a employés. C'est pas parce qu'on a les instruments, qu'on a la technique, qu'on a etc., qu'on fait du Mozart. Voilà, Dieu était Mozart.
Oui, ben, je veux dire la même chose que le père François Méhan. D'abord, pas tous les textes sont préexistants. Des textes sont totalement nouveaux. On les trouve nulle part ailleurs. Et les textes qui s'appuient sur des traditions antérieures les reprennent pour les changer totalement. Que ce soit la Genèse, les quelques récits de la Genèse, que ce soit Job, font allusion à des textes préexistants, mais en changent complètement la compréhension et la conclusion. Donc, cette création, même si elle est étalée dans le temps et que les textes n'ont pas été écrits dans l'ordre où ils sont dans la Bible, il faut aussi savoir ça, c'est quand même quelque chose de nouveau et ça, quand on nous dit que ce sont des textes inspirés, c'est comme ça qu'il faut les comprendre. On a parlé aux gens d'une époque avec le vocabulaire et les connaissances qu'ils avaient pour leur dire des choses qui étaient très en avance et qui nous inspirent encore aujourd'hui et qui nous font vivre, qui nous font sens.
Quelle différence liturgique y a-t-il entre la messe célébrée par les uniates rattachés à Rome et la liturgie orthodoxe russe ?
Donc, les uniates sont des frères catholiques qui célèbrent le rite byzantin. C'est déjà une anomalie énorme. Ça leur demande un effort extraordinaire. Parce qu'ils n'ont pas, en fait, la couverture qui correspond à leur action. Ils disent des choses que ne seraient pas très bien vues, disons, au Vatican. Ben si, oui. Alors, comment font-ils ? Ils le font une liturgie byzantine absolument méticuleuse. Et j'en ai vu à Graz, à la grande réunion à Graz. J'ai été voir, célébrer avec eux, c'était très très cordial, ils m'ont invité pour le baiser de paix, etc. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai vu alors une liturgie qui était faite avec une méticulosité, mais incroyable. Tous les gestes, tout était parfait. Eh bien, figurez-vous que, autant j'étais à l'aise avec ses frères, autant cette liturgie, après coup, m'a laissé un drôle de sentiment. Les orthodoxes sont beaucoup plus souples. Ils tiennent compte des fidèles, on tient compte des prêtres qui boitent, on tient compte de l'encensoir qui ne marche pas, tout ce que vous voulez. C'est, vous voyez, il y a un élément, je dirais, il y a un élément de dignité qui est toujours présent, mais il y a un élément de liberté aussi. Et donc, une liturgie orthodoxe, elle est parfois à l'eau, parfois au champagne, mais ça dépend, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, ça dépend des humains qui sont engagés là-dedans. Eh bien, je me suis dit, je vois une pression chez ces frères qui célèbrent le rite byzantin, sans avoir absolument toute l'assurance que tout ce qu'ils font soit compris, en tout cas dans toute leur église. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et c'est une très très bonne école pour quelqu'un qui ne connaît rien comme moi, parce que j'ai vu des tas de détails, je me suis dit, ah oui, c'est comme ça, parce que les rubriques ne sont pas si précises qu'on puisse inventer les points, les petits points qu'il y a entre chaque rubrique. Comment est-ce qu'on fait pour être à un endroit puis à un autre endroit en même temps, etc. Vous voyez.
Alors, j'aurais aimé revenir sur les différents sens que vous avez distingués, anagogiques, typologiques, tropologiques, etc. Et je me demandais si on pouvait dire que finalement la lecture allégorique serait une spécificité de la lecture orthodoxe. Et puis, deuxième point, sur une des dernières remarques que vous avez faites, vous avez dit, pour ne pas dire que Dieu est à l'origine du mal, il faut une lecture symbolique. Et pourquoi ne pourrait-on pas dire que Dieu est à l'origine du mal?
Alors, il y a des psychiatres qui disent que, bien sûr, les parents sont à l'origine du mal et du bien pour leurs enfants, etc. Sous un certain plomb, pour l'expliquer, disons, voilà, peut-être que ça peut avoir un certain sens. Mais quand il s'agit de Dieu, vraiment, l'homme n'est pas le jouet de Dieu. Il, d'un côté, lui procure des difficultés par son plaisir, et puis d'un autre, lui offre éventuellement une sortie, mais il faut qu'il y ait des conditions pour qu'il le réalise. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout ce Dieu-là qui est celui qui se révèle. C'est un Dieu compatissant. C'est surtout nos idées que l'on projette à l'intérieur de Dieu qui font qu'on se trompe sur Dieu. Alors, ce n'est pas vraiment une lecture anagogique et symbolique, c'est une révision de notre manière de penser. Parce que, figurez-vous, qu'est-ce qui est à l'origine de la pensée? Voilà, c'est Dieu, en fait, dans cette conception-là. Et donc, là, il y a toujours le bien qui l'emporte. Les épreuves existent, bien sûr, on connaît le livre de Job, vous voyez ce qu'il a dû endurer, etc. Mais en fait, lorsqu'il a dit « Et maintenant mes yeux t'ont vu », il est sorti de ce piège, de sentiment d'injustice, d'avoir vécu des choses qu'il n'aurait pas dû vivre. Les choses sont permises par Dieu, il y a le démon, le malin existe, et il est bien actif dans notre monde, il ne se montre pas trop, il n'a pas besoin. Voilà, donc pour dire, revenir à la chose, Dieu ne peut pas être créateur du mal. Parce que voilà, ce serait un Dieu à notre image. Et le problème, c'est que nous sommes à l'image de Dieu et retrouvons l'image que Dieu met en nous, qui est justement différente. Toute la conception spirituelle, tous les progrès que l'on peut faire dans cette vie, table sur ce choix, oui, Dieu est bon. Et un Dieu de bonté. Et voilà, c'est comme ça qu'on ose faire des choses, parce que, voyez, on ne peut pas s'adresser à Dieu si on est honnête vis-à-vis de soi-même. On a tellement de raisons d'avoir été indigne devant Dieu, n'est-ce pas ? Il nous voit à chaque instant. Donc, il voit exactement tout ce que nous avons fait. Donc, si Dieu nous reprochait vraiment tout cela, il n'y aurait aucun passage possible vers lui. Il y a d'ailleurs, malheureusement, le texte m'échappe, il est pourtant très connu, une situation où, dans l'Ancien Testament, où un prophète est accusé par le démon devant Dieu. Et Dieu libère cette accusation. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, l'allégorie. Donc, le mot allégorie est un mot à deux tranchants parce qu'il évoque l'idée qu'à travers une image, on peut atteindre une autre nature d'image. Comprenez ? Tandis que nous, c'est pas ça, c'est plutôt l'idée des poupées russes, c'est-à-dire il y a une ligne directe, c'est plutôt le sens anagogique, c'est-à-dire qui remonte sur le sens qui va au-delà, ou bien il y a plusieurs mots qui disent tous à peu près la même chose. Tropologique, c'est-à-dire qui regarde la finalité. Voilà. Mais allégorique, je me méfie un petit peu de ce mot parce que une allégorie peut n'être pas vraie. C'est une espèce de poésie. On n'est plus dans le domaine de la poésie, on est dans la tradition qui se vit.
Vous avez effectivement parlé de tradition vivante avec les gestes, avec le ressenti, avec les sens. Vous avez parlé effectivement dans cette position du judaïsme où on va retrouver cela. Nous, moi, c'est ce qui m'a parlé, vous ne l'avez pas évoqué, mais dans l'arbre des séphirotes, au niveau de la Kabbale, on retrouve la présence, enfin, comme, je ne veux pas non plus dire des choses qui ne seraient pas vraiment justes, même sur le plan du judaïsme, mais une symbolique d'une présence de Dieu à travers des émanations qui sont un ressenti et qui nous permettent, nous, effectivement, d'être vivants en étant à sa ressemblance. Là, je ne vais pas dans l'idée du bien ou du mal, mais c'est d'être le plus ressemblant. Et là, est-ce que c'est un symbolisme, c'est une image, mais en tout cas, c'est une façon de ressentir et de toucher, parce que le côté incréé, on ne peut pas le toucher. En tout cas, dans le judaïsme, nous n'avons rien de vraiment créé, puisque nous avons des prophètes, mais les prophètes n'ont pas la même place que Jésus, pour vous, chrétiens, qui est... comme créé, et voilà, et incarné en tout cas. Donc, mais j'entends bien ce que vous disiez de quelque chose de vivant que nous ressentons, nous, chacun humain, dans notre façon de vivre, dans nos gestes, dans nos liturgies, dans nos chants, parce que nous avions assisté à une divine liturgie, et j'ai remarqué que vous aviez énormément de chants et de gestes, et j'ai trouvé ça très beau, et j'ai senti que c'était votre façon à vous de vous ouvrir à la présence de Dieu, comme chacun dans nos traditions, nous avons cela.
Est-ce que dans l'orthodoxie, le rituel serait plus important que la prédication ? Une deuxième question, l'équilibre entre le rituel et la prédication, comment ça se présente ? Est-ce que j'avais l'impression que le rituel semble plus important que la prédication ?
Pour nous, la prédication est essentielle. Elle procède d'ailleurs un peu de la même manière que le rituel, dans le sens que c'est une personne qui traduit pour quelqu'un d'autre, à sa demande, une vérité profonde qu'elle a éprouvée. L'homélie est comme partout, cet art, en fait, de commenter à partir de quelque chose que les assistants ont partiellement vécu ou qui a tiré leur attention là-dessus. Elle est obligatoire dans la liturgie, sauf pour les fêtes. Il y a tellement de rituels qui nous livrent en fait des homélies vivantes, il n'y a plus nécessité, ou plutôt que le prédicateur se met un peu à sa place, parce qu'il n'a pas à la hauteur de ces textes, qui nous font pénétrer immédiatement dans des mystères que lui ne pourrait même pas développer par un discours. Donc l'homélie fait partie. Prenons par exemple la tradition des pères du désert. C'est un langage parlé. Ce sont des histoires qui sont transmises d'un ermite, par exemple, un anachorète, à d'autres disciples qui sont en formation, qui viennent capter des messages existentiels, et puis ainsi de suite. Et c'était, ça fait l'objet de recueils. Et les homélies, je peux vous dire, je n'ai un rayon entier dans ma bibliothèque. Et pour moi, j'ai fait des homélies sur le même sujet d'évangile chrétien chaque année. J'en ai maintenant fait peut-être une 25 fois pour un tel ou tel moment de l'année. Eh bien, évidemment, c'est chaque fois différent. Et puis, on se laisse interpeller par ce qu'il y a à vivre et on doit le traduire sur un certain plan. Plus ou moins bien. Alors, une chose, c'est qu'il y a des prêtres, enfin, dans le temps, c'était comme ça, maintenant, comme il y a pas beaucoup de prêtres, je crois qu'on ne se pose plus tellement la question, ils doivent tous prêcher, mais normalement, c'était pas comme ça. Il y avait des prêtres qui étaient des acteurs au service de l'acteur avec un grand A, qui est l'Esprit Saint dans la liturgie, des serviteurs de la liturgie, disons, et ils ne parlaient pas beaucoup. Et il ne prêchait pas. Et d'autres avaient le talent, le charisme de le faire, il le faisait. Dans la première version du christianisme, il y avait les didascales, c'est comme ça qu'on dit, je crois, qui étaient des spécialistes alors de l'homélie. Voilà, l'homélie est très très importante chez les auteurs, elle est infinie même.
Je vais proposer une dernière question. S'il y a encore une question à poser, avec plaisir.
Je voudrais revenir au terme que vous avez employé tout à l'heure, au sujet du nom de Dieu, Elohim, dont le singulier c'est Eloah, ou El, ou Eloah. Alors bien sûr, c'est une bizarrerie que beaucoup de judéens qui étonnent et qui est énigmatique. Or, récemment, pas plus tard qu'hier, j'ai découvert dans un écrit que André Chouraki avait affirmé que ce pluriel qui se conjugue au singulier, quand il y a un verbe à côté, c'est immédiatement au singulier. Alors, il insiste sur ce que je savais déjà, mais ce que j'ai découvert, c'est que Elohim est employé pour des divinités païennes. Astarté, par exemple. Non, ça c'est le commentaire de Chouraki. Alors, ça m'a tellement étonné que j'ai pris un dictionnaire, comment on appelle ça, encyclopédique, qu'on trouve couramment à la FNAC, avec le tétragramme sur la couverture. Je crois que vous savez de quoi je parle. Et j'ai cherché, et j'ai trouvé, dans les différents noms bibliques, hébraïques, de Dieu, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine, à peu près une dizaine. Eh bien, ce dictionnaire confirme ce que Chouraki dit dans le livre Assimil, je l'ai trouvé. Parce que je donne des cours d'hébreu, j'en ai une discussion ce matin avec mes élèves d'hébreu. Le dictionnaire confirme que Elohim est employé pour désigner des divinités païennes, d'origine païenne. Qu'en pensez-vous? Mais j'ajoute une chose, c'est que dans un autre domaine, les lettres hébraïques, très jeune, j'ai eu l'intuition que ça avait des rapports avec d'autres civilisations, notamment les Chaldéens, les cunéiformes, les caractères cunéiformes. Je me disais que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une parenté ou une inspiration. Eh bien, aujourd'hui, c'est reconnu. Marc-Alain Wachnin, dans son livre Le mystère de l'alphabet, il parlait nettement de l'inspiration des Phéniciens, des Sumériens et des Chaldéens. proto-sinaï, proto-sinaïtique.
Oui, je pense qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est sûr. Et, mais je ne pense pas que, d'ailleurs ça ne me gêne pas, autant que vous peut-être, si le mot Elohim réservé, disons, n'était pas seulement réservé au monde juif. L'intérêt, c'est qu'il soit employé dans ce texte et qu'il a dit quand même où est fait la partition entre créé et incréé. Est-ce que cette division créé-incréé se trouve dans les civilisations où on emploie ce terme? C'est une question. D'autre part, soyez certains que ce n'est pas une analyse sur un mot qui peut aboutir à la révélation de la Trinité. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il y a des reflets de triades ou des choses comme ça que c'est toujours la Trinité et que c'est d'emblée ceci. On ne sait pas. Il y a un domaine de recherche. Voilà, mais je pense, que vous avez pas manqué le sujet lorsque je vous ai dit que dans la transmission de la Torah, dans la synagogue, Abba, il y avait les personnages typiques. Et si on regarde leur rôle, etc., c'est très très étonnant parce qu'on en trouve le reflet avec une explication merveilleuse dans la prière sacerdotale du Christ. Donc, voilà, ces choses... On ne sait pas d'ailleurs si peut-être le mot qui nous étonne maintenant, Elohim, elle, n'a pas été repris aussi par contamination à partir des ancêtres du peuple juif qui l'ont appliqué peut-être avant les autres. C'est très difficile dans l'histoire de savoir dans quel sens les choses passent. On est des fois très très étonné et les conclusions hâtives à ce niveau-là, c'est très dangereux. Il y a souvent quelqu'un. Oui, il est venu de Chaldée.
Il est venu dur. Il est venu. Il est originaire du...
Il est venu, bien sûr. Maintenant, pour la communication des idiomes, des écritures, alors il y a toujours eu n'est-ce pas, on ne peut pas créer des choses ex nihilo, nous les hommes. On crée toujours avec... Voyez, à quel point nous sommes vraiment infatués. Quand nous écrivons un livre, nous le signons. Mais au fond, les pensées qui sont là-dedans, on les a volées dans 4 autres livres. Comment fait-on pour réussir dans la littérature? Il faut dominer un sujet, certes, pour faire la part de ce qu'il faut rejeter et garder. Lire une vingtaine de livres, on garde seulement les choses les meilleures, on les réécrit sur un autre style, on présente un peu différemment, on met quelques longues bibliographies derrière, etc. Et voilà, ça fait un nouveau livre. Et on peut en faire beaucoup de livres comme ça, parce que mais on ne peut pas créer ni l'eau, il faudrait mieux savoir. La tradition, c'est que, par exemple, les évangiles ne sont pas forcément l'œuvre d'une seule personne. C'est une filiation, c'est une école.
Père Méhan, merci beaucoup. Nous avons été très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Vraiment, on vous remercie de...